Automne. Chapitre 4. Nouveau rôle. Le navire parvint au sommet de la vague, la proue levée comme s'il voulait monter dans le ciel tourmenté. Ça le savait. Il pleuvait presque assez pour mettre un bâtiment à flot. Pendant un instant qui parut durer une éternité, Althea ne vit plus que le ciel. Puis, le navire piqua du nez et se rua dans une longue pente vers un creux profond. On eût dit qu'il allait plonger dans le mur d'eau qui se dressait devant lui, et il s'y précipita en effet. L'eau verte s'abattit sur son pont, l'impact ébranla le mât en même temps que la vergue à laquelle Althea s'accrochait. Ses doigts engourdis glissèrent sur la toile froide et trempée. Elle entortilla ses pieds dans la ralingue de voilure sur laquelle elle avait pris appui et assura sa prise. À cet instant, avec un frémissement de toute sa membrure, le navire s'ébroua de l'eau accumulée sur son pont et se lança à l'assaut de la montagne suivante.
« Hâte, bouge-toi un peu !»
La voix venait d'en dessous d'elle. Debout sur les enfléchures, Rayleur la regardait d'un air peu engageant, les yeux plissés contre le vent et la pluie.
« Tu as des ennuis, petit ?»«
Non, j'arrive !»
répondit-elle en criant pour couvrir le bruit de la tempête. Elle dégoulinait d'eau, elle avait froid, et elle était complètement épuisée. Les autres marins avaient achevé leur tâche et fui le gréement. Althea, elle, s'était arrêtée un instant afin de prendre des forces avant d'entamer la descente. Au début de son quart, quand on avait signalé l'arrivée de la tempête, le capitaine avait ordonné d'affaler et de carguer les voiles. La pluie s'était mise à tomber, suivi par un vent qui paraissait décidé à arracher les marins du gréement, mais à peine avait-il exécuté l'ordre du capitaine et regagné le pont, qu'instruction avait été donnée de prendre deux ris dans les huniers et de serrer les autres voiles. Comme en réaction aux efforts de l'équipage, la tempête avait empiré. La bordée d'Althea n'avait cessé d'arpenter le gréage comme des fourmis, un débris flottant, carguant, prenant des ris et serrant la voilure en réponse aux ordres qui se succédaient, jusqu'à ce que la jeune fille cessa de penser et se contenta d'obéir aux instructions données à pleine voix depuis le pont. Elle n'avait pas oublié ce qu'elle faisait dans le haubanage, mais ses mains avaient serré et fixé la toile trempée comme de leur propre volonté. Il était stupéfiant de constater ce dont le corps était capable, même quand la fatigue et la peur paralysaient l'esprit. Ses mains et ses pieds agissaient comme des animaux bien dressés, qui s'efforçaient de la maintenir en vie, bien qu'elle ne fût plus certaine elle-même d'en avoir encore envie. Elle descendit lentement et prit pied sur le pont Bonne Dernière, comme d'habitude. Les autres l'avaient dépassée et se trouvaient sans doute déjà à l'abri dans l'entrepont. Le fait que Rayleur eût pris la peine de lui demander si elle avait des ennuis indiquait chez lui une prévenance qui ne se retrouvait pas chez ses camarades de bord. Elle ignorait pourquoi il faisait particulièrement attention à elle, mais elle s'en sentait à la fois heureuse et humiliée. Quand elle était entrée dans l'équipage, elle brûlait de se distinguer et s'était obligée à en faire toujours plus, plus vite et mieux que les autres. Quel plaisir de se trouver à nouveau sur un pont. Les repas répétitifs, les vivres mal préservés, les quartiers exigus et puants, même la grossièreté de ceux qu'elle devait bien appeler ses camarades de bord, tout cela lui avait paru supportable les premiers jours. Elle avait repris la mer, elle ne restait pas inactive, et à la fin de son voyage, elle aurait un brevet de marin à mettre sous le nez de Kyle. Il allait voir ce qu'il allait voir. Elle récupérerait Vivacia, elle se l'était promis. Et c'est avec une solide résolution qu'elle s'était attelée à apprendre le maniement du navire sur lequel elle s'était engagée. Mais malgré tous ses efforts, elle s'était trouvée confrontée à son inexpérience sur ce genre de bâtiment. Inexpérience aggravée par sa petite taille. Elle était à bord d'un navire abattoir, pas d'un marchand. L'objectif du capitaine n'était pas de se rendre le plus vite possible d'un port à l'autre pour effectuer des livraisons, mais de suivre un trajet en zigzag à la recherche de proies. L'équipage était beaucoup plus considérable qu'à bord d'un bateau marchand, car en plus d'assurer les manœuvres, les hommes devaient être assez nombreux pour chasser les proies, les débiter, stocker la viande et fondre la graisse. Le navire était donc beaucoup plus bondé et sale que ceux dont Althea avait l'habitude. Elle s'était tenue à sa résolution d'apprendre vite et bien, mais la volonté seule ne pouvait faire d'elle le meilleur matelot de ce pestilentiel charnier flottant. Tout au fond d'elle-même, elle se rendait vaguement compte qu'elle avait beaucoup gagné en savoir-faire et en vigueur depuis qu'elle s'était enrôlée sur le moissonneur. Mais elle ne l'ignorait pas, ce qu'elle avait acquis jusque-là ne suffisait pas pour faire d'elle ce que son père appelait un petit gars doué. Et sa détermination s'était peu à peu muée en désespoir. Aujourd'hui, même le désespoir avait disparu et elle vivait au jour le jour sans guère penser au lendemain. Elle faisait partie des trois mousses du navire abattoir. Les deux autres, jeunes garçons de la famille du capitaine, n'effectuaient que les tâches les moins pénibles. Ils servaient à la table du commandant et du second, ce qui leur permettait souvent de profiter des reliefs de bons repas. Ils aidaient aussi fréquemment le coq, ce qui leur faisait préparer les rations de l'équipage. C'était cette corvée qu'Althea leur enviait le plus, car ils restaient ainsi sous le pont, non seulement à l'abri des grains, mais près de la chaleur du fourneau et de la coquerie. À elle revenaient les travaux les plus durs d'un mousse. Le gros nettoyage, le transport de seaux remplis de graisse et de goudron, et toutes les tâches des marins qui requéraient une paire de mains en plus. Elle n'avait jamais trimé si dur de toute sa vie. Elle se retint au mât le temps de laisser passer une vague qui balaya le pont, puis elle se dirigea vers le refuge du coqueron avant, courant un instant, puis restant un moment accrochée, haletante, à un cordage ou au bastingage pour éviter de se faire éjecter du navire qui dansait sur les vagues avant de reprendre la manœuvre. Il y avait 3 jours que le mauvais temps durait. Et avant l'arrivée de la tempête, Althea avait cru, dans sa naïveté, que la situation ne pouvait pas être pire. Les marins expérimentés paraissaient considérer ce violent coup de tabac comme un élément normal d'une saison à l'extérieur. Ils le maudissaient, demandaient à ça d'y mettre fin, mais finissaient toujours par échanger des histoires de tempêtes encore pires qu'ils avaient traversées sur des navires qui tenaient moins bien la mer.
« Dis donc, hâte, tu as intérêt à te manier si tu veux ta ration ce soir, et surtout si tu as envie de manger avant qu'elle soit complètement froide !»
Rayleur avait pris un ton menaçant, mais le vieux marin demeura sur le pont jusqu'à ce qu'elle fût arrivée près de lui. Ils descendirent ensemble et refermèrent le panneau derrière eux. Althea fit une pause sur une marche pour s'essuyer le visage et les bras, puis essora son épaisse queue de cheval et enfin elle suivit l'homme dans le ventre du navire. Quelques mois plus tôt, elle aurait considéré cet espace comme froid, humide et puant. À présent, elle y voyait, sinon un foyer, du moins un refuge, où la pluie, chassée par un vent violent, ne risquait pas de la faire tremper. La lumière jaune des lanternes était presque accueillante. Au claquement d'une louche en bois contre le bord d'une marmite, elle comprit qu'on servait le repas et se dépêcha d'aller chercher sa portion. À bord du moissonneur, les quartiers d'équipage n'existaient pas. Chacun trouvait un coin pour dormir et se l'appropriait. Et les plus enviés devaient périodiquement être défendus à grand renfort de coups de poing et de jurons. Au milieu de la cale où s'entassait la cargaison, se trouvait une petite zone dont les hommes s'étaient fait une sorte de tanière. Les mousses y apportaient la marmite et chacun, une fois son quart terminé, venait y prendre sa ration, mesurée en louchée. Il n'y avait pas de table et rien sur quoi s'asseoir, sauf si on disposait d'un coffre personnel. On s'installait par terre, ou bien on s'appuyait à un tonneau d'huile. En guise d'assiette, des tranchoirs de bois qu'on nettoyait du bout des doigts ou à l'aide d'un morceau de pain quand on en avait. Mais le plus souvent, il fallait se contenter de biscuits de mer, et par une pareille tempête, il ne fallait guère espérer que le coq eût essayé de faire du pain. Althea se fraya un chemin dans une jungle de vêtements suspendus. Des habits trempés pendaient partout dans la cale, accrochés à des chevilles et à des crochets, dans le vain espoir de les faire sécher. Althea ôta son ciré, qu'elle avait gagné la semaine précédente en jouant avec Oyo, et le suspendit à la cheville qu'elle s'était appropriée. La menace de Rayleur n'avait pas été faite en l'air. Il était en train de se servir quand Althea s'approcha de la marmite. Et comme tous les hommes du bord, il prenait une ration aussi copieuse que possible sans se préoccuper des autres. Althea se saisit d'une assiette vide et attendit impatiemment qu'il lui laissât la place. Elle sentit qu'il prenait son temps pour la pousser à se plaindre, mais elle avait appris à la dure à s'en garder. N'importe quel marin avait le droit de flanquer une taloche aux mousses sans avoir besoin du moindre prétexte pour cela. Mieux valait se taire et avoir droit à une demi-louche de soupe que se plaindre et n'obtenir qu'une calotte pour tout dîner. Penché sur la marmite, Rayleur continuait à emplir son assiette avec le peu qui restait dans le fond. Voyant qu'Althea refusait de récriminer, il faillit sourire, puis lui dit
« Tiens, garçon, il te reste quelques morceaux. Nettoie bien la marmite, puis cours la rapporter au coq. »
Dans un sens, c'était une fleur qu'il lui faisait. Il aurait pu tout prendre, ne lui laisser que le récipient à racler, et nul n'aurait même songé à soulever la moindre protestation. C'est donc avec satisfaction qu'Althea prit la marmite et se retira dans son coin pour la finir. Elle s'était trouvé un bon emplacement, tout bien considéré. Ses maigres biens étaient entassés dans un angle formé par la rencontre du pont et de la courbure de la coque, ce qui interdisait de s'y tenir debout. Mais elle y avait accroché son hamac, et personne d'autre qu'elle n'aurait été assez petit pour s'y rouler en boule et dormir à l'aise. En outre, l'espace était si exigu que nul ne venait la déranger pendant qu'elle dormait, nul ne la frôlait avec un ciré trempé. Elle emporta donc la marmite dans son réduit et s'installa pour manger. À l'aide de sa chope, elle récupéra ce qui restait de soupe et l'engloutit. Le liquide n'était plus chaud, à tel point que la graisse s'était figée en petits paquets. Mais il était tout de même moins froid que la pluie qui tombait au dehors et la graisse avait bon goût. De plus, Rayleur n'avait pas menti. Il restait bel et bien des morceaux. Ce pouvait être de la pomme de terre, du navet, ou peut-être simplement des blocs farineux de boulettes de pâte mal cuites. Althea n'en avait cure. Elle les prit avec les doigts et les porta à sa bouche, puis elle gratta les derniers restes de nourriture accrochés à la paroi de la marmite à l'aide d'un biscuit de mer. Elle venait d'avaler sa dernière bouchée quand une grande lassitude la prit. Elle était gelée, elle était trempée, elle avait mal partout et n'avait plus qu'une envie. Prendre sa couverture, s'y enrouler et fermer les yeux. Mère Rayleur lui avait dit de rapporter la marmite à la coquerie, et elle était trop avisée pour attendre d'avoir dormi pour exécuter l'ordre. Cela aurait été considéré comme un manquement à son devoir. Certes, il n'était pas impossible que Rayleur ferme les yeux, mais si ce n'était pas le cas, ou bien si le cuisinier se plaignait, elle risquait fort de passer à la garcette, et elle ne pouvait se le permettre. Avec un petit bruit de gorge qui aurait pu être un gémissement, elle sortit à croupetons de son coin, la marmite au creux du bras. Elle dut à nouveau affronter la tempête qui balayait le pont pour atteindre la coquerie. Elle s'y prit en deux fois, courant à chaque reprise d'un abri relatif à un autre, en s'accrochant aussi fermement à la marmite qu'au navire lui-même. Si elle laissait passer un tel ustensile par-dessus bord, elle savait qu'on lui ferait regretter de ne pas l'avoir suivi. Quand elle parvint à la cuisine, elle dut cogner du poing et des pieds à la porte que cet imbécile de coq avait verrouillée de l'intérieur. Et quand il ouvrit enfin, c'est la mine mécontente qui l'accueillit. Sans un mot, elle lui tendit la marmite en s'efforçant de ne pas laisser ses yeux se porter avec envie sur le feu qui brûlait dans sa boîte derrière l'homme. Si on avait les faveurs du cuisinier, on pouvait rester assez longtemps pour se réchauffer. Et quand on était vraiment privilégié, on était même autorisé à suspendre une chemise ou un pantalon dans la coquerie, où il séchait pour de bon. Althea, elle, n'était dans aucun de ces cas. Et le cuisinier lui fit signe de prendre la porte dès qu'elle eut déposé la marmite. Au retour, elle fut victime de sa mauvaise estimation du temps dont elle disposait. Et elle en fit ultérieurement le reproche au cuisinier qui l'avait trop promptement jeté hors de sa cambuse. Elle s'élança pour faire le trajet d'une seule traite, mais à cet instant, le navire parut plonger droit dans le flanc d'une montagne d'eau. Éperdue, elle sentit ses doigts frôler le cordage vers lequel elle s'était précipitée, mais elle ne put assurer sa prise. La déferlante lui fit perdre pied et traverser le pont sur le ventre. Elle se débattit violemment en essayant de s'agripper aux planches du bout des ongles, mais l'eau qui pénétrait dans sa bouche et dans son nez l'aveuglait et l'empêchait d'appeler à l'aide. Une éternité plus tard, sa tête heurta brutalement le bastingage à l'oblique. Le choc lui obscurcit momentanément l'esprit et faillit lui arracher l'oreille. Et l'espace d'un instant, par pur réflexe, elle ne put que se raccrocher des deux mains à la lisse, à plat ventre, sur le pont inondé. Autour d'elle, l'eau se ruait par-dessus bord. Althéas se maintint agrippée, sentant les vagues passer en trombe sur elle, mais incapable de lever la tête assez haut pour reprendre son souffle. Elle savait cependant que si elle attendait que l'eau se fût complètement écoulée pour se remettre debout, la déferlante suivante s'abattrait sur elle. Si elle ne parvenait pas à se redresser tout de suite, elle ne se relèverait plus jamais. Elle tenta de prendre appui sur le pont, mais ses jambes étaient comme du coton. Une main la saisit par le col de sa chemise et la hissa. Elle se retrouva à genoux, hoquetante.
« Tu bousses les dalots !»
s'exclama une voix furieuse. La main la tenait toujours par le col et elle pendait inerte comme un chaton noyé. Enfin, elle sentait de l'air sur son visage, un vent mêlé de pluie, mais avant de pouvoir reprendre sa respiration, elle dut recracher l'eau qui avait pénétré dans sa bouche et ses narines.
« Accroche-toi !»
cria l'homme. Elle lui entoura aussitôt les mollets, des bras et des jambes, puis parvint à inspirer une goulée d'air gargouillante avant que la vague ne les frappe tous les deux. Elle sentit l'homme vaciller sous l'impact et se dit qu'ils allaient sûrement se faire emporter tous les deux. Mais l'instant suivant, alors que l'eau se retirait, il lui appliqua une taloche sur la tête qui la força à relâcher sa prise sur lui, puis le pont se mit à se déplacer sous elle. L'homme la traînait derrière lui, l'ayant saisie d'une seule poigne par le col et la queue de cheval. Arrivé au pied d'un mât, il se mit à grimper en forçant Althéa à l'imiter. Dès qu'elle sentit sous ses pieds et ses mains le cordage familier, elle s'y accrocha et s'y hissa de son propre chef, et la déferlante suivante passa sous elle sans la toucher. Prise de haut-le-cœur, elle vomit toute l'eau de mer qu'elle avait ingurgitée, puis elle se moucha dans ses doigts qu'elle agita ensuite sous la pluie pour les nettoyer. Enfin, elle prit une profonde inspiration et dit à son sauveur
« Merci. Espèce de petit crétin de rat d'entrepont, on a bien failli crever tous les deux à cause de toi. »
Dans la voix de l'homme, la colère le disputait à la peur.
« Je sais, je m'excuse. »
Sa réponse fut tout juste audible dans le vacarme de la tempête.
« Tu t'excuses ? Tu vas voir comment je vais t'excuser, moi. Je vais te botter le cul jusqu'à ce que tu pisses le sang par le nez. »
Il leva le poing et Althéa se raidit dans l'attente du coup. Elle le savait, d'après les critères du bord, elle l'avait mérité. Mais, le choc ne venant pas, elle finit par rouvrir les yeux. Dans la pénombre, Barachun la dévisageait. Il paraissait encore plus suffoqué que quand il l'avait tiré de l'eau.
« Par tous les démons ! Je ne vous avais même pas reconnu ! »
Elle eut un petit mouvement qui aurait pu être un haussement d'épaule et elle détourna le regard. Une vague passa sur le navire qui entama lourdement une nouvelle ascension.
« Eh bien, comment allez-vous ? »
Barachun avait baissé le ton, comme s'il craignait qu'on surprît leur conversation. Il était en dessous de la condition d'un lieutenant de bavarder à bâton rompu avec un mousse, et depuis qu'il avait découvert la présence d'Althéa sur le navire, il avait évité tout contact avec elle.
« Comme vous pouvez vous en rendre compte ?»
répondit-elle à mi-voix. Elle se sentait humiliée, et elle en voulut soudain à Brashen, non à cause d'un geste de sa part, mais parce qu'il la voyait ainsi, réduite à un personnage qui était moins que la poussière sous ses semelles.
« Je me débrouille, je survis. »« Je vous aiderais si j'en avais les moyens. »
Il paraissait en colère contre elle.
« Mais vous savez que c'est impossible. Si je manifeste le moindre intérêt envers vous, ça éveillera les soupçons. J'ai déjà dit clairement à plusieurs membres d'équipage que je n'avais aucune attirance pour les autres hommes. »
Il s'exprimait soudain d'un ton gêné, et une partie de l'esprit d'Althéa savoura l'ironie de la situation. Accroché au gréement d'un sabot au milieu d'une tempête, après s'être apprêté à lui botter les fesses, Brashen n'arrivait pas à lui parler de sexualité par peur d'offenser sa dignité.
Sur un bateau comme celui-ci, on ne verrait qu'une seule façon d'interpréter le moindre signe de gentillesse de ma part envers vous. Alors, quelqu'un d'autre se mettrait à avoir envie de vous, et une fois qu'on aurait découvert que vous êtes une femme...
Althéa l'interrompit.
Inutile de m'expliquer ce qui se passerait, je ne suis pas idiote.
Ignorait-il qu'elle aussi vivait à bord de ce rafio plein de rebuts d'humanité?
Ah non, alors que faites-vous sur ce navire?
Et sur cette question mordante, il se laissa tomber sur le pont. Agile comme un chat, vif comme un singe, Il gagna rapidement la proue du bateau en laissant Althea le regarder s'éloigner, toujours agrippé au gréement.
« La même chose que vous !»
répondit-elle hargneusement, quoique tardivement, sans se soucier qu'il ne l'entendit plus. Lorsque le pont fut à nouveau temporairement dégagé, elle suivit l'exemple de Braschen, mais avec une grâce et un savoir-faire considérablement moindres. Quelques instants plus tard, elle se trouvait sous le pont et entendait la ruée de l'eau tout autour d'elle. Le moissonneur se déplaçait sur les vagues comme une barrique. Althea poussa un grand soupir. Et une fois de plus, secoua la tête et les bras pour en faire tomber les gouttes qui les couvraient. Elle essora sa queue de cheval et agita ses pieds mouillés comme un chat, avant de se rendre dans son coin. Sur sa peau, ses vêtements étaient trempés et elle tremblait de froid. Elle échangea rapidement contre d'autres qui n'étaient qu'humides, puis les tordit pour en exprimer l'excès d'eau, les déplia, pendit sa chemise et son pantalon à une cheville et tira sa couverture de sa cachette. Elle aussi était humide et elle sentait le moisi, mais c'était de la laine. Humide ou non, elle retiendrait la chaleur du corps d'Althea, la seule dont elle disposa. Elle s'enroula dans la couverture puis se coucha en chien de fusil dans le noir. Autant pour la gentillesse de Reller. À cause de lui, elle s'était à moitié noyée et avait perdu une demi-heure de sommeil. Elle ferma les yeux et se prépara à s'endormir. Mais le sommeil la trahit. Elle avait beau être épuisée, l'inconscience refusait de s'emparer d'elle. Elle essaya de se détendre, mais ne parvint pas à se rappeler comment relâcher les muscles de son front plissé. C'était à cause de son entretien avec Braschen, se dit-elle, qui lui avait remis toute sa situation en mémoire. Des jours s'écoulaient souvent sans qu'elle aperçoive le lieutenant. Ils n'étaient pas du même quart, leur vie et leur tâche se croisaient rarement. Quand rien ne venait lui rappeler son existence précédente, Althea pouvait simplement vivre au jour le jour et faire son travail pour assurer sa survie. Elle pouvait concentrer son attention à n'être que le mousse du navire, sans voir plus loin que le quart suivant. Le visage de Braschen, ses yeux, était le plus cruel des miroirs. Il avait pitié d'elle. Il était incapable de la regarder sans trahir par son expression l'horreur que lui inspirait ce qu'elle était devenue, et pire encore, ce qu'elle n'avait jamais été. Le plus affreux, peut-être, était de le voir reconnaître, comme Althea elle-même, que Kyle avait eu raison. Elle avait effectivement été l'enfant gâté de son père et n'avait jamais rien fait d'autre que jouer au marin. Honteuse, elle se rappelait encore l'orgueil qu'elle tirait de la rapidité avec laquelle elle parcourait le gréement de la Vivacia. Mais elle n'y montait en général que par beau temps, et quand les tâches qu'elle y accomplissait la fatiguaient ou l'ennuyaient, elle pouvait toujours descendre sur le pont à la recherche d'une activité plus amusante. Une heure ou deux passées à épicer un cordage ou à recoudre une voile n'avait aucune commune mesure avec 6 heures de travail frénétique sur une toile déchirée qu'il fallait réparer le plus vite possible. Qu'aurait dit sa mère, qui se chagrinait déjà de ses mains rêches et calleuses, en voyant ses paumes désormais aussi dures et cornées que la plante de ses pieds, elle-même noire de crasse et craquelée de gerçure? C'était le pire aspect de son existence, n'être qu'un marin passable. Elle avait beau s'endurcir, elle n'était pas aussi forte que les gaillards du navire. Elle s'était fait passer pour un garçon de 14 ans pour obtenir son poste à bord du moissonneur. Mais même si elle avait souhaité demeurer sur ce sabot abattoir, on aurait fini par s'apercevoir au bout d'un an ou deux qu'elle ne grandissait pas et qu'elle ne gagnait pas en force, et on ne l'aurait pas gardée. Elle se serait retrouvée dans un port à l'étranger sans aucune perspective d'avenir. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité. À la fin du voyage, elle avait eu l'intention de demander son brevet de marin, qu'elle obtiendrait sans doute. Mais serait-ce suffisant? Oh, bien sûr, elle aurait ainsi l'aval d'un capitaine, et elle pourrait peut-être s'en servir pour obliger Kyle à tenir le serment qu'il avait prononcé sans réfléchir. Mais elle craignait qu'il ne s'agît là que d'une victoire sans substance. Ce qu'elle désirait à l'origine, ce n'était pas un morceau de cuir estampé qui témoignerait qu'elle avait survécu au voyage. Elle voulait faire valoir ses aptitudes, prouver à tous et pas seulement à Kyle qu'elle était douée pour la vie qu'elle avait choisie, qu'elle était un bon capitaine et par conséquent un marin compétent. Aujourd'hui, lors des rares fois où elle y songeait, elle avait l'impression d'avoir démontré le contraire. Son aventure, qui lui avait paru audacieuse et intrépide quand elle l'avait commencé à Terrilville, lui semblait désormais puérile et sotte. Elle s'était précipitée vers la mer, habillée en garçon, et avait accepté le premier poste qu'on lui avait offert. Pourquoi ? Pourquoi ne s'était-elle pas présentée à une autre vive-nef et n'avait-elle pas demandé à y être embarquée comme matelot ? L'aurait-on refusée ainsi que l'avait prédit Brachen ? Ou bien pourrait-elle, en cet instant même, être en train de dormir à bord d'un marchand traversant le passage intérieur, assurée d'un salaire et d'une recommandation à la fin de son voyage ? Pourquoi lui avait-il paru si important de se faire engager de façon anonyme, de prouver sa valeur sans compter sur son nom ni sur la réputation de son père ? Cette perspective l'avait enthousiasmée pendant les longues soirées d'été qu'elle avait passées assise en tailleur dans l'arrière-salle du magasin d'ambre à recoudre ses pantalons de marin. Aujourd'hui, ce point de vue lui semblait tout simplement infantile. Car Ambre l'avait aidée. Sans elle, sans ses travaux de couture et ses repas qu'elle avait volontiers partagés avec Althea, la jeune fille ne serait arrivée à rien. La soudaine amitié d'Ambre avait toujours laissé Althea perplexe. Mais elle se demandait à présent si cette femme n'avait pas eu pour but de la propulser dans le danger. Lentement, sa main remonta pour caresser l'œuf de serpent, la perle qu'elle portait accrochée à une lanière de cuir autour du cou. Son contact lui réchauffa presque le bout des doigts, et elle secoua la tête. Non, Ambre était son amie, une des rares qu'elle avait. Elle l'avait hébergée pendant le plein été, et lui avait prêté la main pour couper et coudre ses vêtements de garçon. Mieux encore, Ambre elle-même avait enfilé des habits masculins et appris à la jeune fille à se mouvoir, à marcher et à se tenir assise comme un homme. Elle avait été comédienne dans une petite troupe de théâtre, avait-elle expliqué, dans laquelle elle avait tenu de nombreux rôles des deux sexes.
« Poussez votre voix d'ici », lui avait-elle dit en tapant du doigt l'abdomen d'Althea juste sous les côtes. « Du moins si vous devez absolument parler, mais abstenez-vous-en le plus possible. » Vous aurez ainsi moins de chances de vous trahir et vous serez plus facilement accepté. Quelqu'un qui sait écouter est une rareté. Si on vous croit de cette espèce, on vous passera tous vos autres défauts.
Ambre lui avait aussi montré comment aplatir sa poitrine de telle façon que le bandage ressemble à un vêtement porté sous la chemise. Elle lui avait appris comment utiliser des chaussettes de couleur foncée comme tissu pour ses règles.
« Des chaussettes sales, ça s'explique toujours, » avait-elle dit. « Cultivez une personnalité méticuleuse. Faites votre lessive deux fois plus que les autres, et au bout d'un moment, personne n'y prêtera plus attention. Astreignez-vous aussi à dormir moins, car vous devrez vous lever avant tout le monde ou vous coucher plus tard afin de préserver le secret de votre anatomie. Et voici mon avertissement le plus important. « Ne confiez ce secret à personne. Un homme serait incapable de le garder. Si un seul à bord apprend que vous êtes une femme, tous le sauront bientôt. »
C'était l'unique domaine où Ambre s'était peut-être trompée, car Brachen savait qu'Althea était une femme et il ne l'avait pas trahie. Du moins, pas jusque-là. Une pensée ironique vint soudain à la jeune fille et elle eut un sourire amer.
À ma façon, j'ai suivi votre conseil, Brachen. Je me suis débrouillé pour renaître dans la peau d'un garçon, un garçon qui ne s'appelle pas Vestrit.
Brachen, étendu sur sa couchette, contemplait la paroi en face de lui. La distance qui l'en séparait n'était pas grande. Il fut un temps, songea-t-il lugubrement, où je n'aurais même pas voulu de cette cabine pour y ranger mes vêtements. À présent, il se rendait compte du luxe qu'un espace privé, même aussi réduit, pouvait représenter. Certes, il n'avait guère de place pour se retourner, mais il disposait d'une couchette personnelle et nul autre que lui n'y dormait. Il y avait des patères pour ses habits et un coin dans lequel son coffre de marin entrait tout juste. Sur la couchette, il pouvait se coller contre le rebord qui le coinçait et dormir presque sans risque lorsqu'il n'était pas de quart. Les cabines du capitaine et du second étaient nettement plus vastes et mieux équipées, même sur un tel rafio. Mais, d'un autre côté, à bord de bien d'autres navires, le lieutenant n'était pas mieux loti que l'équipage. Aussi Brachen appréciait-il ce petit recoin de tranquillité, même s'il n'y avait accédé qu'à la suite de la mort de trois hommes. Il s'était embarqué comme simple matelot et avait passé la première partie du voyage à gronder et à jouer des coudes dans le gaillard d'avant en compagnie de ses camarades de quart. Très tôt, il s'était rendu compte qu'il avait non seulement plus d'expérience, mais aussi plus de volonté pour faire bien son travail que le reste de ses compagnons. Le Moissonneur était un navire abattoir de Chandelle, loin dans le sud, à la frontière nord de Jamelia. Lorsqu'il avait quitté le port plusieurs mois plus tôt, au printemps, son équipage était surtout composé de conscrits. Une poignée de marins professionnels en formait l'épine dorsale et avait pour charge de faire des nouveaux, des matelots, à coups de trique. Parmi les conscrits, certains se trouvaient là pour dettes, enrôlés de force par leurs créanciers qui vendaient leur travail afin de récupérer l'argent prêté. D'autres étaient de simples criminels achetés dans les prisons du gouverneur. Les voleurs, à la tire ou non, avaient rapidement cessé leurs activités à bord, ou bien ils étaient morts. La promiscuité sur un navire abattoir n'encourageait pas la tolérance envers ce genre de délit. En résumé, l'équipage ne travaillait pas de bon gré et ses membres avaient peu de chances de survivre aux rigueurs du voyage. Le temps que le Moissonneur arrive à Terrilville, il avait perdu un tiers de ses hommes, que ce soit à cause des maladies, des accidents ou de la violence qui régnait à son bord. Les deux tiers restants avaient envie de vivre. Ils avaient appris à manœuvrer un navire, à pourchasser les lentes tortues et les baleines dites noires des îlots et des lagons de la côte méridionale. Leur savoir-faire n'avait naturellement rien à voir avec la technique des chasseurs et des dépeceurs professionnels, qui jouissaient à bord du luxe relatif d'une salle commune au sec et de jours entiers d'oisiveté. La dizaine qu'ils étaient ne touchait jamais à un cordage et ne participait à aucun quart. Ils se tournaient les pouces en attendant l'heure du massacre et du sang. Alors, ils travaillaient avec fureur et restaient parfois plusieurs jours sans dormir tant que la moisson était bonne. Mais ils n'étaient pas marins, et ils ne faisaient pas partie de l'équipage. Ils ne risquaient pas de perdre la vie, sauf si le navire sombrait ou si une de leurs proies se retournait contre eux. Le bateau avait suivi la route du nord par l'extérieur des îles des pirates, sans cesser de chasser, de massacrer et de fondre la graisse de ses victimes. À Terrilville, le Moissonneur avait fait relâche pour se ravitailler en eau et en vivres, et effectuer les réparations qu'il avait les moyens de payer. Le second avait aussi activement recruté de nouveaux hommes en prévision du voyage dans les îles mortes. Son bâtiment était presque le seul à embaucher dans le port. Les tempêtes qui sévissaient entre Terrilville et les mortes terres étaient aussi célèbres que la multitude de mammifères marins qui s'ébattaient dans ces eaux, juste avant la migration d'hiver. Ils étaient alors bien gras de leur pacage estival, et la fourrure luisante des jeunes était de la bonne taille pour le dépeçage, sans être encore marqué par les cicatrices des combats pour la reproduction ou la nourriture. De telles prises valaient de braver les tempêtes d'automne pour récupérer des fourrures douces, d'épaisses couches de graisse et, en dessous, une chair maigre d'un rouge sombre dont le goût évoquait à la fois la mer et la terre. Les barils de sel qui emplissaient la cale au départ de Chandelle seraient bientôt pleins de tranches salées de cette viande si recherchée. Les barriques déborderaient d'huile clarifiée, alors que les peaux grattées seraient elles aussi salées puis roulées serrées en attendant d'être tannées. Ce serait une cargaison assez profitable pour faire danser de joie les propriétaires du Moissonneur, tandis que les conscrits qui auraient survécu jusqu'à Chandelle sortiraient libres de leur épreuve. Les chasseurs et les dépeceurs prendraient leur pourcentage sur la recette totale et commenceraient à lancer les enchères sur leurs services pour la saison suivante, enchères fondées sur leurs récents résultats. Quant aux vrais marins qui avaient manœuvré leur navire sur tout le trajet et l'avaient ramené à bon port, ils descendraient à quai, les poches pleines de pièces sonnantes et trébuchantes, en quantité suffisante pour leur permettre de boire et de s'offrir des femmes jusqu'au moment où il serait temps de reprendre la route des mortes terres. « C'était la belle vie !» se disait Brachen avec un sourire forcé. Il s'était trouvé une bonne place, et cela ne lui avait guère coûté. Il n'avait eu qu'à obéir promptement aux ordres pour se faire remarquer du second, puis du capitaine. Il avait été aidé dans son ascension par la tempête, qui avait emporté deux hommes et estropié un troisième, ceux qui constituaient les meilleurs candidats à la fonction de lieutenant. Ce n'était pourtant pas le remords d'avoir dû passer sur des cadavres pour obtenir son poste et les responsabilités qu'il comportait qui le tourmentait ce soir-là. Non. C'était la pensée d'Althea Vestrit, la fille de son bienfaiteur, roulée en boule, misérable, dans la cale, au milieu de la lie qui y habitait. « Je n'y peux rien !» Il avait prononcé la phrase tout haut, comme si, en la confiant à l'air, il pouvait apaiser sa conscience. Il n'avait pas vu Althea monter à bord à Terrilleville, et dans le cas contraire, il aurait eu du mal à la reconnaître. Elle avait pris de façon convaincante l'apparence d'un jeune mousse, et il devait lui rendre cette justice. La première fois qu'il avait eu le soupçon de sa présence à bord, ce n'avait pas été en la voyant. Il avait aperçu le mousse à plusieurs reprises sans se rendre compte de rien. Son déguisement était parfait, avec son bonnet plat rabattu sur son front et ses vêtements de garçon. Mais le jour où il avait repéré un cordage fixé à un crochet par un double nœud de croc au lieu d'un nœud de cabestan, il avait tiqué. Ce n'était pas un système d'attache très rare, mais le nœud de cabestan était le plus couramment employé, alors que le capitaine Vestrit avait toujours préféré le croc. Brachen n'y avait guère accordé d'attention à l'époque. Cependant, le lendemain dans la journée, au moment où il sortait sur le pont avant son quart, il avait entendu un sifflement familier dans le gréement. Il avait levé les yeux et il l'avait vu agiter le bras en essayant d'attirer l'attention de la vigie pour lui transmettre un message. Il l'avait aussitôt reconnu. « Tiens, Althea !» s'était-il dit calmement. Puis il avait sursauté un instant plus tard en prenant conscience de la situation. Incrédule, il l'avait regardé, bouche bée. Pas d'erreur. C'était bien elle. On ne pouvait se tromper sur sa façon de courir sur les bordures de voile. Elle avait jeté un coup d'œil vers lui, et, à sa façon de détourner vivement le visage, il comprit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps tout en le redoutant. Il avait inventé un prétexte pour demeurer au pied du mât jusqu'à ce qu'elle en redescende, mais elle était passée devant lui à moins d'une longueur de bras, en lui adressant seulement un regard implorant. Il avait serré les dents sans rien dire et ne lui avait pas parlé jusqu'à ce soir. Une fois qu'il l'avait reconnue, il avait vécu dans les affres d'une certitude. Elle ne survivrait pas au voyage. Jour après jour, il s'était attendu à ce qu'elle trahisse sa condition de femme ou à ce qu'elle commette une erreur minime qui permettrait à la mère de l'emporter. Ce n'était qu'une question de temps. Le mieux qu'il avait pu espérer pour elle était une mort rapide. Il semblait à présent que tel ne devait pas être le cas, et Brachen s'autorisa un petit sourire caustique. Cette fille savait se débrouiller. Naturellement, elle n'avait pas les muscles nécessaires pour accomplir les corvées qu'on lui confiait, du moins pas aussi vite que le désirait le second. Brachen réfléchit. Le problème ne venait pas de son manque de force ou de carrure. Elle était capable en réalité de bien exécuter ses tâches, mais elle ne pouvait pas rivaliser avec les hommes aux côtés desquels elle travaillait. Quelques pouces d'envergure en plus, 4 ou 5 livres à rajouter quand il fallait manœuvrer un palan, pouvaient faire toute la différence. Elle était comme un cheval attelé avec un bœuf. Elle n'était pas incapable de travailler, elle était seulement mal à parier. En outre, elle était passée d'une vive nef à un bateau en simple bois. La vive nef de sa famille, en plus. S'était-elle seulement doutée que se mesurer à du bois mort pouvait être tellement plus difficile que piloter un navire qui se prêtait à la manœuvre? Même si la vivacia ne s'était pas éveillée alors qu'il se trouvait encore à son bord, Brachen avait senti une conscience sous-jacente dès la première fois où il avait touché un de ses cordages. La vivacia était loin de se diriger seule, mais il avait toujours semblé à Brachen que les incidents stupides qui se produisent souvent à bord des autres navires n'arrivaient jamais sur elle. Sur un rafio comme le moissonneur, le travail était toujours à tiroir. Une tâche simple, comme remplacer un gond, devenait un labeur éprouvant une fois qu'on s'était rendu compte que le gond défectueux avait été fixé sur un montant à demi pourri et désaligné. Rien, songea-t-il avec un soupir, rien n'était aisé à bord du moissonneur. Comme en réponse à ses réflexions, on frappa sèchement à sa porte.
Ce n'était pas l'heure de son quart. Par conséquent, c'était qu'il y avait un ennui.
« J'arrive !» répondit-il.
En un clin d'œil, il quitta sa couchette et ouvrit la porte. Mais celui qui se tenait là n'était pas le second venu lui confier des tâches supplémentaires à cause de la tempête. C'était Rayleur, qui entra d'un air hésitant. Ses cheveux et son visage dégoulinaient encore.
« Eh bien ?» demanda Brashen d'un ton peu engageant.
Un pli vertical barra le front large de l'homme.
« J'ai mal à l'épaule, » répondit-il.
Les devoirs de Brashen comprenaient le soin de la pharmacie du bord. Au début du voyage, il y avait un médecin sur le navire, lui avait-on dit. Mais il était tombé à la mer au cours d'un coup de tabac une nuit. Quand on s'était aperçu que Brashen était en mesure de déchiffrer les pattes de mouche des étiquettes sur les bouteilles et les boîtes de médicaments, on lui avait confié la charge de ce qui restait de fourniture médicale. Personnellement, il avait des doutes quant à l'efficacité de beaucoup, mais il les employait selon les instructions des étiquettes. Il se tourna donc vers la pharmacie qui occupait presque autant de place que son coffre de marin et passa la main sous sa chemise pour prendre la clé accrochée autour de son cou. Il déverrouilla le coffret en examinant un moment le contenu, les sourcils froncés, puis saisit une fiole marron décorée d'une étiquette verte couverte de fioritures. Les yeux plissés, il lut ce qui y était inscrit à la lueur vacillante de la lanterne.
« Je crois que je vous ai déjà donné ce produit la dernière fois, » dit-il avant de soumettre le flacon à l'inspection de Rayleur.
Le marin scruta l'objet comme si, à force de les regarder, les lettres lui deviendraient intelligibles. Pour finir, il haussa les épaules.
« L'étiquette était verte aussi, » fit-il. « C'est sans doute la même chose. »
Non sans mal, Brashen extirpa le gros bouchon de l'épais goulot et fit tomber dans le creux de sa main une demi-douzaine de pilules verdâtres. Il songea qu'elles ressemblaient à des déjections de serre. Et il aurait été qu'à moitié surpris d'apprendre que c'en était. Il en refit glisser trois dans le flacon et donna les trois autres à Rayleur.
« Prenez-les toutes. Dites au coq que j'ai donné l'ordre de vous remettre une demi-mesure de rhum pour les faire descendre et de vous permettre de rester au chaud dans la coquerie le temps qu'elles agissent. »
Le visage de l'homme s'illumina aussitôt. Le capitaine Sichel n'était pas généreux avec l'alcool, et ce serait sans doute la première fois que Rayleur goûterait au rhum du bord depuis leur départ de Terrilleville. À la perspective d'un coup à boire et d'un coin chaud où s'asseoir un moment, les traits de l'homme prirent une expression de gratitude. Brashen, pour sa part, nourrissait quelques doutes sur l'efficacité des pilules. Mais il était sûr que le rhum de basse qualité qu'on achetait pour l'équipage aiderait l'homme à dormir en attendant que sa douleur passe. Comme Rayleur s'apprêtait à sortir, Brashen fit un effort et posa la question qui lui brûlait les lèvres.
« Le petit de mon cousin, celui sur lequel je vous ai demandé de garder l'œil, comment se débrouille-t-il ? »
L'homme haussa les épaules en faisant rouler les pilules dans sa main gauche.
« Oh, il s'en tire bien, lieutenant, très bien. Il a de la bonne volonté. »
Il posa la main sur la poignée, visiblement pressé de s'en aller. Le rhum promit la plaie.
« Ainsi, poursuivit Brashen à sa propre surprise, il connaît son travail et le fait intelligemment ?»«
Oh, ça oui, lieutenant. C'est un bon petit gars, je vous l'ai dit. » « Je garderai l'œil sur Attel et je veillerai à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. »«
Très bien, très bien. Mon cousin sera fier de lui. »
Il hésita.
« Attention, je ne veux pas que le petit soit au courant qu'on le surveille. Il ne s'agirait pas qu'il s'imagine avoir droit à un traitement particulier. »«
Oui, lieutenant. »« Non, lieutenant. »« Bonne nuit, lieutenant. »
Et Rayleur sortit en fermant résolument la porte derrière lui. Paupières closes, Brashen respira profondément. Il ne pouvait faire davantage pour Althea que de demander à un homme de confiance comme Rayleur de veiller sur elle. Il s'assura que le verrou de sa porte était en place, puis referma à clé le coffret aux médicaments. Il remonta à quatre pattes sur sa couchette exiguë et poussa un grand soupir. Impossible de faire mieux pour Althea.
Impossible, vraiment. Enfin, il parvint à s'endormir.
Yémin n'aimait pas monter dans les gréements. Il avait fait de son mieux pour dissimuler le fait à Torg. Mais l'homme possédait le flair infaillible des brutes, et une dizaine de fois par jour, il inventait un prétexte pour envoyer le jeune garçon en haut du mât. Quand il s'était aperçu que la répétition émoussait la crainte de Yémin, il avait compliqué ses tâches en lui donnant des objets à transporter jusqu'au nid de pie, que l'enfant devait remonter chercher aussitôt qu'il avait repris contact avec le pont. Selon les derniers ordres de Torg, il devait non seulement grimper dans le gréement, mais aussi se rendre à l'extrémité des espars et y rester suspendu, le cœur au bord des lèvres, jusqu'à ce que le second lui crie de revenir. C'était de la simple brimade, de l'espèce la plus stupide et la plus prévisible qui soit. Yémin n'en attendait pas moins de Torg. Il avait plus de mal à comprendre que le reste de l'équipage accepte comme normal qu'on le tourmente ainsi. Quand il prêtait attention aux abjections auxquelles le soumettait Torg, les hommes s'en amusaient en général, et nul ne s'interposait. Et pourtant, se disait Yémin accroché à son espars en regardant le pont si loin en dessous de lui, le second lui avait en réalité rendu service. Le vent le giflait et gonflait la toile, et la tige à laquelle il était agrippé chantait sous la tension. La hauteur du mât exagérait les mouvements du navire sur les vagues, et transformait le moindre roulis en un vaste arc de cercle. Yémin n'appréciait toujours pas de se trouver si haut, mais il ne pouvait nier en ressentir une certaine exaltation qui n'avait rien à voir avec le plaisir. Il avait affronté un défi et vaincu l'obstacle. De lui-même, il n'aurait jamais cherché à prendre sa propre mesure de cette façon. Il plissa les yeux face au vent qui lui hurlait aux oreilles, et l'espace d'un instant, joua avec l'idée que peut-être sa place était là, sur un navire, et que tout au fond du prêtre battait peut-être le cœur d'un marin. Un petit bruit inattendu attira son attention, une vibration métallique. Une garniture était-elle en train de céder? Son cœur se mit à battre un peu plus vite, et il entreprit de suivre lentement la ralingue pour déterminer la source du bruit. Le vent moqueur le lui apportait, puis l'emportait brusquement. Yémin l'entendit à plusieurs reprises avant de remarquer des variations de ton et de rythme dans ce son qui défiait la course du vent. Arrivé au nid de pie, il s'accrocha au rebord. À l'intérieur se trouvait Clément. Le jeune matelot s'était trouvé une position confortable, accroupi, le dos appuyé à la paroi. Ses yeux n'étaient que des fentes et il tenait une petite harpe de bouche contre sa joue. Il en jouait d'une seule main, à la façon des marins, en se servant de sa bouche comme caisse de résonance, tandis que ses doigts dansaient sur les lamelles de métal qui constituaient les cordes de l'instrument. Ses oreilles n'écoutaient que sa musique, tandis que son regard surveillait l'horizon. Yémin crut que Clément avait conscience de sa présence jusqu'au moment où le jeune garçon lui jeta un brusque coup d'œil. Ses doigts se figèrent.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en gardant l'instrument contre sa joue.
« Rien. Tu es de quart ?»«
Si on veut. Il n'y a pas grand-chose à guetter. »«
Des pirates, peut-être ?» fit Yémin. Clément eut un grognement de mépris.
« Ils n'embêtent pas les vives nefs, d'habitude. »«
Ah, bien sûr. J'ai entendu des rumeurs là d'où on vient, en Calcède, comme quoi une ou deux s'étaient fait pour chasser. Mais en général, ils nous fichent la paix. »
La plupart des vives-nefs sont capables de distancer n'importe quel bateau en bois, à moins qu'elle n'ait un équipage avec un très mauvais esprit. Et puis les pirates savent que, même s'ils rattrapent une vive-nef, ils vont avoir droit au combat de leur vie. Et même s'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Un bateau qui refuse de naviguer pour eux. Tiens, tu crois que Vivacia accepterait à son bord des étrangers qui voudraient la diriger? Ça m'étonnerait.
Moi aussi, dit Yémin. Il était agréablement surpris, à la fois par l'affection et l'orgueil évident que Clément éprouvait pour le navire, et par le fait qu'il consente à bavarder avec lui. Clément paraissait flatté de l'attention captivée de son compagnon.
« Pour moi, les pirates sont en train de nous rendre un fier service. »
Yémin mordit complaisamment à l'hameçon.
« Comment ça ? » ?»« Eh bien, comment t'expliquer ? » ?»«
Tu n'es pas descendu à terre en Calcède, hein ? »
À ce qu'on nous a dit là-bas,
certains pirates se sont mis d'un seul coup à traquer les transports d'esclaves. Ils en ont pris au moins un, et la rumeur parle d'autres qui auraient été menacés. Bon, c'est la fin de l'automne, mais au printemps, Calcède a besoin d'un gros paquet d'esclaves pour les semailles et les plantations. Si les pirates éliminent les transports habituels, le temps qu'on arrive en Calcède avec une cargaison de premier choix, on n'aura plus qu'à fixer nous-mêmes nos prix. On tirera tellement de notre fret qu'on pourra sans doute rentrer directement à Terrilville. Avec un sourire radieux, Clément hocha la tête comme si le mérite du bon prix que Kyle obtiendrait de ses esclaves allait en partie rejaillir sur lui. Il ne faisait sans doute que répéter les discours des anciens de l'équipage. Sans rien dire, Yémin contempla l'horizon par-delà la mer houleuse. Il se sentait une profonde envie de vomir qui n'avait rien à voir avec le mal de mer. Chaque fois qu'il pensait à Jamélia et au fait que son père allait bel et bien y acheter des esclaves, une tristesse effrayante montait en lui, comme s'il éprouvait les remords et la douleur d'un événement honteux avant qu'il ait eu lieu. Au bout d'un moment, Clément reprit son bavardage. « Alors, comme ça, Torque t'a obligé à monter une fois de plus ?»«
Eh oui. »
À sa propre surprise, Yémin s'étira puis s'adossa avec insouciance au bord du nid de pie.
« Ça ne me gêne plus autant qu'avant. »«
C'est ce que je vois. »« C'est bien à ça que ça sert. » Yémin leva les sourcils, étonné, et Clément lui répondit par un sourire entendu.
« Ah, tu croyais que c'était une torture qui t'était réservée ?»
Oh non. Torg aime bien te faire en DV, mais par les couilles de ça, il aime faire enrager tout le monde, s'il est sûr que ça ne lui retombe pas sur le nez. Mais faire cavaler le mousse du haut en bas du mât est une tradition. Quand je suis arrivé à bord, j'étais révolté. C'était Brashen le second à l'époque, et je le considérais comme le fils d'une truie. Le jour où il s'était rendu compte que j'avais la trouille de monter ici, il avait ordonné que tous mes repas y soient servis. « Si tu veux manger, va chercher ta ration », qu'il me disait. Et j'étais obligé de grimper au mât et de tâtonner à quatre pattes jusqu'à ce que je trouve le seau qui contenait mon repas. Ce que je pouvais le détester. J'avais tellement peur et je montais si lentement que tout était déjà froid quand j'arrivais, et la moitié du temps il avait plus dedans. Mais comme toi, j'ai appris à ne plus y faire attention au bout d'un moment.
Yémin se tut, songeur. Les doigts de Clément reprirent leurs dents sur les cordes, jouant un petit air entraînant.
« Ainsi, Torg ne me déteste pas ? Il s'agit simplement d'une forme d'entraînement ?»
Clément cessa de jouer avec un air amusé.
« Oh non ! Torg te déteste, ne t'inquiète pas. Il déteste tous ceux qu'il croit plus intelligents que lui, c'est-à-dire la plupart des hommes à bord. Mais il connaît aussi son boulot. Et il sait que, s'il veut le conserver, il doit faire de toi un marin. » Alors il t'apprend. Il le fait de la façon la plus dure et la plus désagréable possible, mais il t'apprend.
Si c'est quelqu'un d'aussi odieux, pourquoi mon... le capitaine le garde-t-il comme lieutenant ?
Clément haussa les épaules.
Demande à ton papa ?
Jeta-t-il cruellement. Puis il eut un sourire complice qui transforma presque sa réponse en plaisanterie.
Il paraît que Torg est avec lui depuis un bon moment. Et qu'il était là pendant un voyage qui s'est très mal passé sur le navire où ils étaient. Alors, quand le capitaine a pris le commandement de la Vivacia, il a amené Torg avec lui. Le lieutenant ne trouvait peut-être d'embauché nulle part, et ton père se sentait une espèce d'obligation envers lui. Ou bien, Torg a un joli petit cul bien serré ?
Yémin en resta bouche bée.
Mais Clément avait retrouvé son sourire complice. Eh, c'est pour rigoler ! « Pas étonnant que tout le monde adore te taquiner. Comme cible, on ne fait pas mieux. »«
Mais c'est de mon père qu'il s'agit !» protesta Yémin.
« Non, monsieur. Pas quand tu sers à bord de son bateau. À ce moment-là, c'est ton capitaine et rien d'autre. Et c'est pas un mauvais commandant. Il n'est pas aussi bon qu'Efron et certains d'entre nous pensent toujours que c'est Brashen qui aurait dû prendre la suite quand le capitaine Vestri t'a raccroché. Mais celui-ci n'est pas mauvais. »
« Alors pourquoi dire ce que tu as dit sur lui ?»
Yémin n'y comprenait plus rien.
« Parce que c'est le capitaine, » expliqua Clément d'un ton patient. « C'est une tradition chez les marins, même si on respecte son commandant parce qu'on sait qu'il peut te caguer dessus quand l'envie lui en prend. »« Tu veux savoir un truc ?
Quand on a appris que le capitaine Vestrit rendait sa veste et qu'il mettait quelqu'un à sa place, tu sais ce qu'a fait Confrette ?
Non, quoi ?
Il est allé dans la coquerie prendre la chope à café du capitaine, et il a passé sa queue bien partout à l'intérieur.
Les yeux gris de Clément rayonnaient de ravissement.
Il attendait avec impatience la réaction de Yéma.
Tu te moques encore de moi ?
Malgré lui, il sentit un sourire horrifié apparaître sur ses lèvres.
C'est dégoûtant et dégradant. C'est trop indigne pour être vrai.
Qu'un homme traite ainsi un autre homme qu'il ne connaissait même pas, simplement parce que ce nouveau venu allait détenir l'autorité, c'était incroyable. Et pourtant, c'était comique.
À cet instant, Yémin eut un éclair de compréhension. Jouer un tel tour à quelqu'un qu'on connaît serait cruel et pervers. Mais infliger cela à un capitaine anonyme, pouvoir regarder un homme qui avait pouvoir de vie et de mort sur soi, et l'imaginer en train de boire du café au goût de...
Il détourna le regard de Clément en percevant, incrédule, le sourire de connivence qui s'élargissait sur ses propres lèvres.
Confrette avait fait ça à son père.
C'est normal que l'équipage fasse 2-3 trucs comme ça au capitaine et au second. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils se prennent pour des dieux et nous pour de la merde.
Dans ce cas, tu crois qu'ils sont au courant de ce genre de pratique ?
Clément sourit largement.
Si tu restes assez longtemps dans la marine, tu finis par l'apprendre.
Il joua quelques notes sur son instrument, puis haussa ostensiblement les épaules.
Ils pensent sans doute que ça ne leur arrive jamais à eux, tout bêtement.
Donc personne ne les avertit.
Yéma avait pensé tout haut pour clarifier sa réflexion.
Bien sûr que non. Qui irait les prévenir ?
Quelques notes plus tard, Clément cessa brusquement de jouer.
Tu ne nous dénoncerais pas, hein ?
Même s'il s'agit de ton père et que...
Il laissa sa phrase en suspens en se rendant compte qu'il en avait peut-être trop dit.
Non, je ne vous dénoncerai pas,
dit Yéma à sa propre surprise. Et il ajouta malicieusement avec un sourire idiot,
« Surtout parce qu'il s'agit de mon père. »« Garçon ! Garçon, ramène tes fesses par ici !»
C'était Torgue qui braillait depuis le pont.
Yémin poussa un soupir. « Je te jure, cet homme a un sens spécial pour savoir quand je ne suis pas malheureux, et il prend alors toujours les mesures nécessaires pour y remédier. »
Il entama la longue descente.
Clément se pencha légèrement pour l'observer et lui cria
« Tu fais des phrases trop longues. Dis simplement qu'il te colle au cul comme une couche de peinture. »
En effet, l'image est aussi bonne, convint Yéma.
« Grouille-toi, garçon !»
beugla Torgue, et le jeune mousse porta toute son attention à la descente du mât.
Beaucoup plus tard, ce soir-là, alors qu'il méditait sur le pardon du jour, il se posa des questions. N'avait-il pas ri d'un acte cruel ? N'avait-il pas, par son sourire, été complice de la dégradation d'un être humain ? Que devenait ça dans tout cela ?
Le remords l'envahit, mais il le repoussa.
Le sentiment de culpabilité n'avait guère d'intérêt pour un véritable prêtre de ça, et ne faisait qu'obscurcir son jugement.
Si un homme se sentait indigne, il devait chercher ce qui le troublait et en éliminer la cause.
Souffrir les affres du remords n'indiquait pas qu'on s'était amélioré, mais simplement qu'on se soupçonnait de dissimuler une faute.
Étendu dans le noir, immobile, il réfléchit à ce qui l'avait fait rire et pour quelle raison.
Et pour la première fois depuis bien des années, il se demanda si sa conscience n'était pas trop sensible, si elle n'était pas devenue un obstacle entre ses semblables et lui-même. Ce qui sépare ne relève pas de ça, se dit-il tout bas. Mais il s'endormit avant de pouvoir retrouver la source de la citation, ou même de savoir si elle provenait d'un texte sacré.
Les mortes terres apparurent par un matin froid et clair.
Le voyage vers le nord-est avait fait passer le navire et son équipage de l'automne à l'hiver. D'un temps doux et clair à un brouillard et une bruine perpétuelle. Les mortes terres s'étendaient bas sur l'horizon. On ne voyait pas d'îles, seulement des emplacements où les vagues se brisaient soudain en écume blanche et en embrun. Les terres étaient au ras de l'eau, plates, constituées principalement de grèves rocheuses et de plaines de sable qui se hissaient par hasard au-dessus de la ligne de haute marée. Dans les ports, Althea avait entendu dire qu'on y trouvait une végétation buissonnante et guère plus, et elle n'avait aucune idée de ce qui poussait les ours de mer à s'y rendre pour se battre, s'accoupler et élever leurs petits, d'autant plus que chaque année, à la même époque, les navires abattoirs venaient chasser et tuer des centaines d'entre eux. Les yeux plissés à cause des embruns salés, elle se demanda quel instinct de mort les ramenait sur ces îles tous les ans, malgré leurs souvenirs de sang et de boucherie. Vers midi, le moissonneur s'approcha sous le vent d'un groupe d'îles et s'aperçut qu'un de ses rivaux s'était déjà installé dans le meilleur mouillage. Le capitaine Sichel se mit à jurer, comme si c'était la faute de ses hommes et de son navire, si le Carlet était arrivé sur place avant eux. Les ancres furent jetées et les chasseurs tirés de la stupeur de leur inactivité. Althea avait entendu dire que quelques jours plus tôt, ils s'étaient disputés entre eux à propos d'un de leurs paris et qu'ils avaient bien failli tuer l'un des leurs qu'ils soupçonnaient de tricher. Cela l'avait laissée indifférente. Ils avaient un langage ordurier et des manières déplaisantes chaque fois qu'obéissant à ses devoirs de mousse, elle allait les chercher. Et elle ne s'était pas étonnée qu'ils se sautent à la gorge dans leur quartier exigu à force d'oisiveté. Les torts qu'ils s'infligeaient entre eux ne la regardaient pas. C'est du moins ce qu'elle croyait. Ce fut une fois le navire bien ancré, alors qu'elle s'attendait à jouir de sa première journée de calme relatif depuis des semaines, qu'elle découvrit brutalement combien c'était faux. Officiellement, elle n'était pas de service. La plupart des hommes de sa bordée dormaient, mais elle avait décidé de profiter du jour et du temps comparativement calme pour ravauder certains de ses vêtements. Effectuer des travaux minutieux à la lumière d'une lanterne commençait à lui faire mal aux yeux, et l'air avait une odeur de renfermé sous les ponts. Elle s'était trouvée un coin tranquille, sous le vent du rouf. Elle était à l'abri des rafales et, par miracle, le soleil brillait malgré le mordant de l'hiver qu'on sentait dans l'air. Elle venait de commencer à découper des carrés du tissu de ses pantalons les plus usés pour rapiécer les autres, quand elle entendit le second crier son nom.
« Atel !»
rugit-il, et elle se dressa d'un bond.
« Présent, lieutenant !»
répondit-elle sans prêter attention à son ouvrage qui avait glissé de ses genoux.
« Pars, à te rendre à terre. Tu vas aider les dépeceurs, il leur manque un homme. Et que ça saute !»«
Oui, lieutenant !»
Elle ne pouvait répondre autre chose, mais l'accablement la saisit. Cependant, elle réagit avec célérité. Elle prit son ouvrage et le descendit dans la cale où elle le mit de côté pour l'achever un jour indéterminé, puis elle enfila des chaussettes feutrées et d'épaisses bottes afin de se protéger des rochers couverts de bernacles. Elle enfonça son bonnet de tricot sur ses oreilles et remonta en vitesse sur le pont. Il n'était que temps, car les beaux soirs soulevaient déjà les canots. Elle se jeta dans l'une des embarcations et prit place à une rame. Les marins en firent autant tandis que les chasseurs courbaient le dos sous les rafales et les embruns glacés en échangeant des sourires ravis de plaisir anticipé. Ils tenaient haut, à l'écart de tout contact avec les vagues, leurs arcs favoris, alors que des sacs huilés remplis de flèches roulaient dans l'eau qui clapotait au fond de l'esquif. Althea s'escrimait sur son aviron en s'efforçant de soutenir l'allure de ses compagnons. Les canots du moissonneur s'approchaient ensemble des grèves rocailleuses des îles, chacun équipé de chasseurs, de dépeceurs et de marins. Althea observa presque sans y faire attention que Brachen tirait l'aviron sur une autre embarcation. « C'est donc lui qui commanderait les marins à terre, » songea-t-elle. Elle résolut de ne pas se faire remarquer de lui. De toute façon, elle travaillerait avec les chasseurs et les dépeceurs. Leur chemin n'avait donc pas de raison de se croiser. Un instant, elle se demanda quelle tâche on allait lui attribuer, puis écarta cette question de son esprit. C'était une vaine curiosité, puisqu'on le lui apprendrait bientôt. Tout comme le bâtiment rival s'était emparé du meilleur mouillage, ses chasseurs avaient pris la plus grande île. Or, par tradition, les uns n'empiétaient pas sur les territoires des autres. L'expérience avait enseigné qu'on n'y gagnait que des morts et des profits moindres pour tout le monde. L'île où Althea et ses compagnons mirent le pied était donc vierge d'humains. Les plages caillouteuses étaient désertes, en dehors de quelques vieilles ours de mer qui se reposaient dans les hauts fonds. Les mâles adultes étaient déjà partis pour entamer la migration qui les ramenait à leur point d'hivernage. Althea savait que sur les plaines sableuses de l'intérieur, on trouverait les jeunes femelles et les petits de l'année, demeurés là pour se nourrir des dernières remontes de poissons, se constituer une couche de graisse et prendre des forces avant leur long voyage. Les chasseurs et les dépeceurs restèrent à bord des canots, pendant que les rameurs sautaient dans l'eau peu profonde, saisissaient les plats-bords et tiraient les embarcations à terre. Ils minutèrent l'opération afin de profiter d'une vague pour les aider à franchir les écueils. Althea gagna la plage en compagnie des autres marins. Avec la sensation que ses jambes et ses bottes trempées aspiraient en elle le froid de l'air. Une fois à terre, elle découvrit promptement en quoi consistaient ses devoirs, qui étaient apparemment d'accomplir toutes les tâches dont les chasseurs et les dépeceurs ne voulaient pas. Elle se retrouva bientôt chargée comme un baudet de tous les arcs, flèches, couteaux et pierres à affûter qu'ils avaient apportés en supplément, et les bras pleins, elle suivit les chasseurs vers l'intérieur des terres. Elle s'étonna qu'ils marchent à si grands pas et parlent si fort entre eux. Elle s'attendait pour une chasse à une attitude plus discrète. Au sommet de la première côte, l'intérieur doucement vallonné de l'île se révéla devant elle. Les ours de mer dormaient, vautrés en groupe sur le sable et parmi les buissons. Comme les hommes franchissaient la colline, les énormes créatures daignèrent à peine remarquer leur présence. Celles qui ouvrirent les yeux observèrent leur approche avec aussi peu d'intérêt que les activités des oiseaux bougiers qui partageaient leur territoire. Les chasseurs choisirent leur position. Althea se vit rapidement décharger des sacs de flèches qu'elle avait portés jusque-là, et elle se tint à l'écart tandis qu'ils tendaient la corde de leurs arcs et sélectionnaient leur cible. Puis, la pluie mortelle des flèches s'abattit. Les animaux touchés se mirent à beugler, et certains à tourner maladroitement en rond avant de mourir, mais le troupeau ne parut pas faire le rapprochement entre ces morts et les hommes qui se tenaient sur la colline au-dessus de lui. Le massacre se fit posément, les chasseurs choisissant leur cible et les tirant aussitôt. Ils visaient de préférence la gorge, là où les flèches à large tête ouvraient largement veines et artères. Le sang coulait à flots. Saigner les animaux à blanc était la méthode recherchée, car elle laissait les fourrures intactes et permettait de récupérer une viande qui n'était pas trop chargée en sang. La mort des créatures n'était ni rapide ni sans douleur. Althea n'avait pas souvent été témoin de chasse, encore moins de massacre à une telle échelle. Elle était révulsée. Mais elle faisait l'effort de rester et de regarder le spectacle comme l'aurait fait, elle en était sûre, un vrai garçon. Et elle s'efforçait de ne pas laisser paraître sa répulsion. Les chasseurs exécutaient leur métier en professionnels. Dès qu'ils avaient épuisé leur stock de flèches, ils descendaient arracher celles qui pointaient des cadavres, tandis que les dépeceurs arrivaient derrière eux comme des corbeaux sur un champ de bataille. Le gros des animaux vivants s'était déplacé, gêné par l'agitation et les meuglements des mourants. Ils n'éprouvaient encore aucun affolement, apparemment. Rien que de la contrariété à cause des bouffonneries étranges de certains des siens qui dérangeaient sa sieste. Le chef des chasseurs jeta un regard agacé à Althea.
« Va voir pourquoi il n'arrive pas avec le sel !»
lui ordonna-t-il d'un ton cassant, comme si elle avait dû savoir que cette corvée lui encombrait et l'avait négligée. Elle obéit promptement, soulagée de quitter la scène d'horreur. Les dépeceurs étaient déjà à l'œuvre, arrachant la peau de chaque bête, récupérant la langue, le cœur et le foie avant de repousser les entrailles de côté et de laisser à la créature sa graisse et sa viande à nu sur sa propre peau. Toujours bien informées, les mouettes arrivaient déjà pour le festin. Althea avait à peine dépassé le sommet de la colline qu'elle vit venir vers elle un marin qui roulait un baril de sel devant lui. Il était suivi de toute une file de ses compagnons, occupés à la même tâche, et Althea prit alors conscience de l'envergure du travail. Des tonneaux et des tonneaux de sel étaient acheminés sur le terrain d'abattage, tandis qu'un radeau constitué de barriques vides était amené à terre par une nouvelle équipe de marins. La même activité régnait partout sur l'île. Le moissonneur était solidement ancré, occupé par un équipage minimal. Tous les autres hommes travaillaient à la vaste tâche du débarquement, puis du transport des tonneaux, tant pleins de sel que vides, jusqu'à terre. Il faudrait ensuite rapporter ces mêmes tonneaux, mais remplis de viande ou de peau salée. Le navire poursuivrait sa moisson tant qu'il resterait des animaux vivants et des barriques vides.
« Ils ont besoin du sel tout de suite !»
dit Althea au marin qui poussait le premier baril. Il ne se donna pas la peine de répondre et elle regagna le groupe des chasseurs au pas de course. Il semait déjà la mort dans une nouvelle aile du vaste troupeau. Alors que les dépeceurs avaient déjà terminé de traiter une bonne moitié des premiers animaux abattus. Ce fut le début d'une des journées sanglantes et apparemment sans fin qui suivirent. Althea écopait des tâches que les autres se jugeaient trop occupés pour exécuter. Elle transportait les cœurs et les langues jusqu'à une barrique centrale et salait chaque organe avant de l'ajouter dans le récipient. Peu à peu, ses vêtements devinrent à la fois gluants et raides de sang, d'un brun sombre, en quoi elle ne différait pas de ses voisins. Les matelots débutants jetés en prison pour dette à Jamelia avaient rapidement appris à se faire boucher. Les paquets de graisse jaunâtre étaient détachés de la chair et entassés dans des barriques propres en attendant d'être rapportés sur le navire. Les carcasses étaient désossées pour ne pas prendre trop de place dans les tonneaux. Les tranches de viande rouge sombre étaient soigneusement salées avant d'être étendues à plat, puis recouvertes d'une couche de sel avant qu'on ne ferme les barils. On grattait les peaux pour en ôter toutes les traces de graisse ou les lanières de viande que les dépeceurs auraient pu laisser, puis on les étendait et on répandait une épaisse couche de sel sur le côté extérieur. Après une journée de ce séchage, on les secouait pour en faire tomber le sel, on les roulait, les liait et on les emportait en paquets au navire. À mesure que les équipes de bouchers avançaient, elles laissaient derrière elles des os striés de rouge et des tas de viscères. Et les oiseaux de mer fondaient sur ce banquet, ajoutant leur voix à celle des tueurs et des tués. Althea avait espéré acquérir une certaine insensibilité à ce travail sanglant. Mais à chaque journée qui passait, sa tâche lui paraissait à la fois un peu plus monstrueuse et routinière. Elle s'efforça de concevoir que ce massacre général d'animaux se répétait tous les ans, mais n'y parvint pas. Même les ossements blanchis et emmêlés des terrains de boucherie n'arrivèrent pas à la convaincre que l'année précédente avait connu une tuerie de la même ampleur. Elle finit par renoncer à y songer et se contenta d'exécuter les ordres. Un camp rudimentaire avait été installé sur l'île. Sur le même site que celui de l'année précédente, sous le vent d'une formation rocheuse connue sous le nom de Dragon. La tente n'était guère qu'un carré de toile tendue pour couper le vent, et les feux n'étaient là que pour leur chaleur et la cuisine. Cependant, on avait tout de même un abri. Les rafales qui assaillaient les hommes transportaient une odeur à la fois douceâtre et épaisse de sang et de boucherie. Mais cela changeait au moins de l'air confiné des quartiers du bord. Les marins firent des feux fumeux avec les branches résineuses des buissons qui poussaient sur l'île et les rares bouts de bois que rejetaient les marées. Ils firent griller des foies d'ours de mer et Althea se joignit au banquet. Aussi soulagée que les autres de ce changement de régime et de cette occasion de manger à nouveau de la viande fraîche. En un sens, son nouveau statut lui convenait bien. Elle travaillait désormais pour les chasseurs et les dépeceurs, et ses devoirs étaient à part de ceux du reste de l'équipage. Elle n'enviait à personne la rude ascension de la colline en poussant devant soi une barrique pleine, puis la traversée de la grève rocheuse, le transport jusqu'au navire, le levage à bord et le rangement dans les cales. C'était une besogne éreintante et qui ne requérait aucune intelligence. Des corvées ingrates comme celle-là n'avaient guère de rapport avec le métier de marin. Et pourtant personne parmi l'équipage du moissonneur n'y échappait. Les tâches d'Althea, elles, évoluaient au gré des besoins des chasseurs et des dépeceurs. Elle aiguisait les couteaux, récupérait les flèches sur les cadavres, salait et embarillait cœurs et langues, étendait les peaux, les salait, les secouait, les roulait et les rangeait dans des tonneaux. Elle enrobait de sel les tranches de viande et les empilait dans des barils. Le mélange constant de sang et de sel lui aurait gercé les mains si elle n'avait été constamment enduite de graisse animale. Le temps s'était montré clément, venteux et froid, mais sans aucun signe de ces pluies violentes qui risquaient d'abîmer définitivement les peaux et la viande. Mais un après-midi, les nuages envahirent soudain le ciel en bouillonnant, apparaissant tout d'abord à l'horizon, puis grignotant rapidement le ciel bleu. Le vent lui-même devint plus mordant. Les chasseurs continuèrent toutefois à tuer en jetant à peine un regard de temps en temps aux nuages qui s'épaississaient au loin, grands et noirs comme des montagnes. Ce ne fut que quand la première bruine commença de tomber qu'ils renoncèrent à leur propre pluie mortelle et se mirent à crier d'un ton mécontent aux dépeceurs et aux embarrilleurs de se dépêcher avant que la viande, la graisse et les peaux ne soient perdues. Althea ne voyait pas bien ce qu'on pouvait faire contre la tempête à venir, mais elle l'apprit rapidement. Les peaux furent roulées autour d'une épaisse couche de sel, et tout le monde fut embauché comme dépeceur, boucher et embarrilleur. Elle se retrouva un couteau à découper entre les mains, penchée sur une carcasse encore chaude, en train d'ouvrir un ours de mer de l'œsophage jusqu'à l'orifice anal. Elle avait si souvent assisté à l'opération qu'elle n'en ressentait presque plus de haut-le-cœur. Néanmoins, une sensation de nausée grouilla un instant en elle lorsqu'elle arracha la peau tendre de l'épaisse couche de graisse. La bête était chaude et flasque sous ses mains, et à l'ouverture, le cadavre exhala une odeur de mort et d'entrailles. Althea se gendarma, et la large lame plate de son couteau à dépecer glissa sans mal sur la graisse, décollant la peau du corps, tandis que sa main libre maintenait une traction constante sur la fourrure douce. Elle perfora la peau en deux endroits lors de son premier essai, en voulant aller trop vite. Mais quand elle se détendit et s'efforça de penser moins à ce qu'elle faisait qu'à le faire bien, elle dépeça la bête suivante aussi facilement qu'elle aurait pelé une orange de Jamélia. « Il suffisait, se dit-elle, de réfléchir à l'anatomie de l'animal et d'imaginer l'endroit où la peau devait être épaisse ou fine, la graisse présente ou absente. » À son quatrième animal, elle se rendit compte que non seulement elle trouvait le travail facile, mais aussi qu'elle y était douée. Elle se mit à passer rapidement de cadavre en cadavre, tout à coup insensible au sang et à la puanteur. Le long coup de lame pour ouvrir la bête, le dépeçage rapide, suivi de l'éviscération tout aussi rapide. Le cœur et le foie étaient détachés en deux coups de couteau, le reste des entrailles repoussées à l'écart de la carcasse et de la peau. Le découpage de la langue était à son avis la partie la plus difficile, car il fallait ouvrir la gueule de l'animal, y glisser la main pour attraper l'organe humide et encore chaud, puis le trancher à la base. S'il ne s'était pas agi d'un mets aussi délicat, elle aurait fort été tentée de passer outre à l'opération. Au bout d'un moment, elle leva la tête pour jeter un coup d'œil autour d'elle à travers la neige fondue chassée par le vent. La pluie glacée tambourinait sur son dos et dégoulinait dans ses yeux, mais jusqu'à cet instant, elle s'en était à peine rendue compte. Elle s'aperçut que, derrière elle, rien moins que trois équipes de bouchers s'efforçaient de suivre sa cadence. Elle avait laissé une large piste de carcasses dépecées. Au loin, un des chasseurs paraissait parler au second. Il fit un vague geste dans la direction d'Althea, et elle eut alors la conviction qu'elle était le sujet de leur conversation. Elle revint à son travail, son couteau s'agitant plus vite que jamais, tandis qu'elle battait des paupières pour chasser la pluie froide qui lui coulait dans les yeux et dégouttait du bout de son nez. Une petite flamme d'orgueil commença de brasiller au fond d'elle. C'était un travail sale, dégoûtant, à une échelle où on ne pouvait même plus parler d'avidité. Mais elle y avait du talent. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pu se voir ainsi que la prise de conscience de ce manque la laissa bouleversée. Puis vint un moment où elle promena son regard autour d'elle et ne découvrit plus d'animaux à écorcher. Elle se redressa lentement en faisant rouler ses épaules endolories, essuya son couteau sur son pantalon couvert de sang, puis tendit ses mains à la pluie glacée et la laissa nettoyer le sang et les petits bouts de graisse qui y étaient collés. Elle les frotta ensuite sur le devant de sa chemise, puis repoussa ses cheveux trempés de son visage. Derrière elle, des hommes se courbaient encore sur les carcasses dépecées qu'elle avait laissées dans son sillage. Un marin faisait rouler un baril de sel dans sa direction, tandis qu'un autre suivait avec un tonneau vide. Quelqu'un s'arrêta près d'elle, redressa sa barrique et leva les yeux vers les siens. C'était Brachen. Elle lui sourit avec fierté. « Bon boulot, hein ?» Il essuya son visage ruisselant de pluie et répondit à mi-voix « À votre place, j'en ferai le moins possible pour attirer l'attention sur moi. Votre déguisement ne résistera pas à un examen minutieux. »
Sa rebuffade l'irrita.
« Peut-être que si je deviens vraiment doué pour ce travail, je n'aurai plus besoin de déguisement. »
Une expression à la fois incrédule et horrifiée passa sur les traits de Brachen. Il défonça le dessus du tonneau de sel, puis se mit à faire des gestes comme s'il ordonnait à Althea de s'occuper des pots. Mais son discours fut tout autre. « Si ces animaux dressés sur leurs pattes de derrière que vous côtoyez toute la journée soupçonnaient le moins du monde que vous êtes une femme, ils vous sauteraient tous dessus jusqu'au dernier, avec encore moins de scrupules qu'ils n'en ont à participer à cette boucherie. Quelle que soit votre valeur à leurs yeux en tant que dépeceuse, ils ne verraient aucune raison de ne pas se servir de vous comme putain. » Et pour eux, votre simple présence parmi eux signifierait que vous vous y attendiez et y consentiez.
Sa voix basse et son ton grave glacèrent Althea davantage que la pluie. Il y avait une telle conviction dans ses paroles que, ne songeant pas un instant à discuter, elle partit d'un pas vif à la rencontre de l'homme au tonneau, les bras chargés de la langue et du cœur de la dernière bête qu'elle avait décarcassée. Elle poursuivit cette tâche en gardant la tête baissée, comme pour empêcher la pluie de tomber dans ses yeux, et en s'efforçant de vider sa tête de toute pensée. Si elle avait pris un moment pour se rendre compte à quel point cet exercice lui était devenu facile, elle en aurait été effrayée. Ce soir-là, en retournant au camp, elle comprit enfin d'où venait le surnom du rocher qui l'abritait. Par un jeu de la lumière oblique du soleil, à travers les nuages, les détails du dragon apparaissaient avec une affreuse netteté. Elle ne les avait pas remarqués jusque-là, parce qu'elle ne s'attendait pas à le voir écroulé sur le dos, les pattes avant crispées sur son poitrail, ses ailes ouvertes submergées par la terre. La torsion du corps immense laissait pressentir une mort atroce. Althea s'arrêta, horrifiée, sur la petite colline d'où elle regardait la scène. Qui avait bien pu sculpter une telle statue? Et pourquoi diable avait-on installé le camp à ses pieds? La lumière changea subtilement, et tout à coup, le rocher érodé jaillit de la mince couche de terre ne fut plus qu'un gros caillou aux formes étranges, dont les contours évoquaient vaguement un animal couché. Althea relâcha son souffle.
« Ça te flanque un coup la première fois que tu le vois, hein ?» fit Reller juste à côté d'elle.
La surprise la fit sursauter.
« Un peu, oui, »
reconnut-elle avant de hausser les épaules avec la feinte bravoure d'un adolescent.
« Mais ce n'est quand même qu'un rocher. »
Reller baissa le ton.
« Tu en es sûr ? Tu devrais grimper sur sa poitrine un jour, histoire de voir... » Cette partie-là qui ressemble à des pattes de devant, elles sont agrippées à une flèche ou du moins ce qui en reste. Non, petit gars, c'est la carcasse d'un dragon vrai de vrai, abattu quand le temps était plus jeune qu'un œuf et qu'il pourrit depuis un peu plus chaque jour.
Althea s'esclaffa devant ce qu'elle prenait pour une taquinerie.
Les dragons, ça n'existe pas. Ah non! Ne viens pas me dire ça à moi, ni à aucun autre marin qui se trouvait au large des côtes des Six Duchés il y a quelques années. On en a vu des dragons, et pas seulement un ou deux. Des armées entières qui volaient comme des oies sauvages, et de toutes les formes, et toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Et ça s'est produit deux fois. Pas une, deux fois. Il y en a qui disent que c'est eux qui ont attiré les serpents, mais ça, c'est pas vrai, parce que des serpents, j'en avais déjà vu des années avant, loin dans le sud. Évidemment, aujourd'hui, on en voit beaucoup plus, alors les gens croient à leur existence. Mais quand tu auras navigué aussi longtemps et aussi loin que moi, tu sauras qu'il y a plein de choses qui sont vraies, mais que peu de gens ont vues.
Althea lui adressa un sourire sceptique.
« C'est ça, Reller. « Prends-moi pour une pomme, il y en a encore plein l'arbre. »« Saleté de mioche !»
répondit l'homme, apparemment vexé pour de bon.
« Parce que ça sait se servir d'un couteau d'écorcheur, ça se croit le droit d'être insolent avec ses supérieurs. »
Et il se mit à descendre de la colline d'un air digne. Althea le suivit plus lentement. Elle se disait qu'elle aurait dû se montrer plus crédule. Après tout... Elle jouait le rôle d'un garçon de 14 ans en route pour son premier long voyage. Mieux valait ne pas gâcher le plaisir de Rayleur si elle voulait rester dans ses petits papiers. Bon, la prochaine fois qu'il raconterait une histoire de marin, elle l'écouterait et jouerait le jeu. En définitive, Rayleur était ce qui se rapprochait le plus d'un ami à bord du moissonneur. La Vivacia entra dans son quatrième port un soir en fin d'automne. Le soleil éclairait la ville, tombant en biais à travers un banc de nuages. Yémin, sur le gaillard d'avant, passait son heure vespérale et obligatoire auprès de Vivacia. Appuyé au bastingage près de la figure de proue, il contemplait la cité aux flèches blanches nichées dans le creux du petit port. Il se taisait comme souvent, mais depuis quelque temps, on sentait dans son silence plus d'amitié que de détresse, et Vivacia en remerciait Clément de tout son cœur. Depuis qu'il s'était lié avec Yémin, ce dernier retrouvait le goût de vivre. Sans se montrer d'une gaieté sans bornes, il acquérait au moins un peu de l'effronterie habituelle des mousses. À l'époque où il occupait cette fonction, Clément était audacieux et plein de vie, toujours à mijoter un mauvais tour quand il ne faisait pas le bouffon pour qui avait un moment de libre à passer en sa compagnie. Quand il avait pris le statut de matelot, son attitude envers le travail s'était assagie, comme il se devait. Mais la comparaison avait largement joué au détriment de Yémin. Il n'était que trop évident qu'il n'accomplissait pas ses devoirs avec tout son cœur. Il ne prêtait pas attention aux tentatives des marins de plaisanter avec lui. Ou bien, il les comprenait de travers, et son humeur sombre rebutait toutes les bonnes volontés qui auraient été prêtes à passer quelque temps avec lui. À présent qu'il commençait à sourire, même si ce n'était que de temps en temps, et à riposter avec bonhomie au pic, il se faisait peu à peu accepter sur le navire. Les marins étaient plus susceptibles de lui donner un conseil ou un avertissement pour lui éviter de commettre des erreurs et de multiplier sa charge de travail. Il tirait profit de chacune de ses petites réussites et maîtrisait les tâches qu'on lui confiait avec la rapidité d'un esprit formé à bien apprendre. Un compliment ou un mot gentil ça et là commençait à éveiller en lui le sentiment de faire partie de l'équipage. Et certains s'apercevaient maintenant que sa nature docile et son caractère méditatif n'étaient pas des faiblesses. Peu à peu, Vivacia se mettait à nourrir des espoirs pour lui. Elle lui jeta un coup d'œil. Des mèches de ses cheveux noirs s'étaient échappées de sa queue de cheval et lui tombaient dans les yeux. Et avec un coup au cœur, Vivacia vit à sa place un fantôme, un écho d'Ephron Vestrit au même âge. Elle tourna le torse, le bras tendu. « Prends ma main !» lui demanda-t-elle à mi-voix, et à son grand étonnement, il obéit. Il éprouvait toujours à son égard, elle le savait, une méfiance fondamentale, ignorant si elle était une créature de ça ou non. Mais quand il posa sa main au caressant dans le creux de la sienne et qu'elle referma ses doigts géants sur les siens, ils ne firent soudain plus qu'un. Il voyait désormais par les yeux de son grand-père. Ephron aimait ce port et les gens de cette île. Les flèches et les dômes d'une blancheur éclatante étaient d'autant plus surprenants que la ville était réduite. Plus loin, sous les frondaisons de la forêt, vivaient la plupart des Kémariens. Leurs habitations étaient petites, vertes et humbles, et eux-mêmes ne labouraient pas, n'éventraient pas le sol. C'étaient tous des chasseurs. Nulle route pavée ne quittait la ville. Rien que des pistes sinueuses praticables par les marcheurs et les carrioles à bras. Ces gens auraient pu passer pour primitifs sans la petite cité de l'île de la Griffe. Là, ils donnaient libre cours à leur instinct de constructeur. L'agglomération ne comptait pas moins de 30 édifices, sans parler de la profusion des chopes qui bordaient la rue marchande, ni des bâtiments en bois brut qui s'alignaient devant le front de mer et servaient à des fins commerciales. Mais chacune des structures qui composaient le cœur blanc de la ville était un prodige d'architecture et de sculpture. Le grand-père de Yémin s'était toujours accordé le temps de se promener dans le centre de marbre de la ville pour admirer les visages des héros, les frises où se déployaient les légendes et les arches sur lesquelles grimpaient des plantes aussi bien vivantes que taillées dans la pierre. « Et la plus grande partie de ce plaquage de marbre, dit Yémin, c'est vous qui l'avez apporté.
sans lui et toi. Ah, je vois, c'est presque comme mes vitraux. La lumière les traverse pour illuminer l'œuvre de mes mains. À travers ton travail, la lumière de ça brille dans cette beauté. Il parlait si bas que Vivacia avait du mal à l'entendre. Pourtant, elle était encore plus déroutée par l'émotion qu'il partageait avec elle. Ce qu'il appréciait en ce lieu était un sentiment qu'il plaçait au-dessus de tous les autres, celui d'un mouvement vers l'unité. Pour lui, les façades aux sculptures complexes n'étaient pas des œuvres d'art destinées au plaisir de l'œil. Elles étaient l'expression d'un phénomène qu'elle ne comprenait pas bien, la convergence de navires, de marchands et de négociants, dont le résultat était non seulement une beauté physique, mais aussi Arcforia sa. Elle ne connaissait pas ce terme et ne pouvait qu'essayer d'en saisir le concept. La joie incarnée, le meilleur de l'homme et celui de la nature alliés en une expression permanente. La justification de tout ce que ça avait donné avec tant de générosité au monde. Elle sentit monter en Yémin une euphorie spirituelle qu'elle n'avait jamais perçue chez personne d'autre de son espèce. Et elle s'aperçut que c'était cela qui manquait si fort au jeune garçon. Les prêtres lui avaient enseigné à voir le monde par ces yeux-là, avaient délicatement éveillé en lui le besoin d'une beauté et d'une bonté sans mélange. Il était convaincu que son destin était de les chercher, de les trouver et de les exalter sous toutes leurs formes. Il devait croire en elle. Vivacia avait voulu communier avec lui et se faire son professeur. Au lieu de cela, c'est elle qui avait reçu et appris. À sa propre surprise, elle se retira de Yémin et rompit le contact parfait qu'elle avait cherché. Elle avait besoin de réfléchir, et peut-être y parviendrait-elle mieux seule. Dans cette pensée, elle reconnut encore tout l'impact de Yémin sur elle. On lui accorda une virée à terre. Il savait que cette décision ne venait ni de son père ni de Torg. Le capitaine était descendu au port des heures plus tôt pour entamer les négociations commerciales et il avait emmené son lieutenant. Par conséquent, cette autorisation de mettre pied à terre en même temps que les autres devait avoir été donnée par Gantry, le second. Et elle laissa Yémin perplexe. Le second avait la responsabilité de tous les hommes à bord du navire, et seule la parole du commandant avait préséance sur la sienne. Pourtant, il n'avait jamais donné l'impression d'être tout à fait conscient de l'existence de Yémin, et ne lui avait presque jamais adressé la parole directement depuis qu'il se trouvait sur la Vivacia. Néanmoins, le jeune garçon entendit son nom dans la liste, annoncée à haute voix, du premier groupe d'hommes autorisés à descendre à terre, et il sentit les battements de son cœur s'accélérer. L'occasion était trop belle. Chaque fois qu'ils avaient jeté l'ancre ou s'étaient amarrés en Calcède, il avait regardé la terre avec nostalgie, mais il lui avait toujours été défendu de quitter le navire. À l'idée de fouler un sol stable, de regarder des spectacles qu'il n'avait encore jamais vus, il fut pris d'un vertige extatique. Comme les autres chanceux qui faisaient partie de la première équipe à descendre, il se rua sous le pont pour enfiler ses vêtements de port, se passer un coup de peigne dans les cheveux et retresser sa queue de cheval. Il eut un moment d'indécision quant au choix de ses habits. C'est Torg qui avait eu pour charge d'acheter le trousseau de Yémin avant qu'il quitte Terrilville. Son père avait refusé de lui allouer l'argent et le temps nécessaire pour faire l'emplette des vêtements et des fournitures dont il aurait besoin pour le voyage. Yémin s'était retrouvé avec deux ensembles de toiles pour le travail du bord, tous deux de qualité médiocre, et il avait soupçonné Torg d'avoir fait un bon profit sur la marge entre l'argent que son père lui avait remis et ce qu'il avait réellement dépensé. Le lieutenant avait également fourni à Yémin un habit de port typique, une chemise tissée à larges rayures et un pantalon noir en toile grossière, d'aussi mauvaise façon que ses ensembles de pont. Il ne lui allait même pas très bien, car Torg n'avait pas été particulièrement regardant sur la taille. La chemise, surtout, était trop longue. À la place, il pouvait mettre sa bure marron de prêtre. aujourd'hui tachée et usée, elle avait été ravaudée en de nombreux endroits et raccourcie pour résoudre le problème de l'effilochage et fournir du tissu pour des pièces. S'il l'enfilait, il proclamerait à nouveau à tous qu'il restait un prêtre, qu'il n'était pas marin, et il perdrait le peu de terrain gagné auprès de ses camarades de bord. Tout en mettant la chemise rayée et le pantalon noir, il se dit que ce faisant, il ne démentait pas son état de prêtre, mais prenait une décision d'ordre pratique. S'il était présenté aux gens de cette ville inconnue, vêtu comme un ministre de ça, on l'aurait certainement reçu avec toute la générosité due à un prêtre errant. Or, il aurait été malhonnête de sa part de rechercher ou d'accepter une telle hospitalité, alors qu'il n'était en réalité qu'un matelot en visite. Il chassa fermement de son esprit l'idée gênante et tenace qu'il faisait un peu trop de compromis ces derniers temps, que sa morale devenait un peu trop élastique, et il se dépêcha de se joindre au groupe qui débarquait. Ils étaient cinq, y compris Yémin et Clément. L'un des trois autres était Confrette, et Yémin s'aperçut qu'il n'arrivait pas à détacher les yeux de lui, mais était aussi incapable de soutenir son regard. Devant lui se tenait l'homme qui avait proféré une obscénité sur la chope à café de son père, et le jeune garçon ne parvenait pas à savoir s'il devait en éprouver de l'horreur ou de l'amusement. Confrette paraissait d'un naturel enjoué, lançant une plaisanterie après l'autre à ses voisins qui maniaient les rames. Il portait un bonnet rouge et mangé de trous, orné d'amulettes bon marché en bronze, et il manquait une dent à son sourire. Ayant fini par se rendre compte des regards dérobés que Yémin lui jetait, il lui fit un clin d'œil et lui demanda bien fort s'il aimerait l'accompagner au bordel.
« Je parie que les filles te feront payer moitié prix. Les genoux comme toi, ça leur titille l'imagination à ce qu'il paraît. »
Et malgré son embarras, Yémin ne put s'empêcher de sourire, tandis que les hommes autour de lui éclataient de rire. Il comprit soudain que derrière beaucoup de taquinerie se cachait de la simple bonhomie. Ils tirèrent le canot sur la plage bien au-delà de la ligne de marée. Ils n'avaient quartier libre que jusqu'au coucher du soleil, et deux des hommes se plaignaient déjà que c'était seulement après qu'on commençait à trouver du bon vin et des filles convenables.
« Les écoute pas, Yémin !» fit Confrette d'un ton rassurant. « On peut trouver plein de trucs à Cresson à toute heure. Ces deux-là préfèrent le noir pour leur plaisir, c'est tout. Faut dire qu'avec des têtes pareilles, il vaut mieux qu'ils restent dans l'ombre, même pour convaincre une pute de les prendre. Viens avec moi !» « Je te promets que tu vas bien t'amuser avant qu'on doive retourner au navire. »«
J'ai quelques visites à faire avant le coucher du soleil, » s'excusa Yémin. « Je voudrais voir les sculptures du palais Idichi et les frises du mur des héros. »
Ses compagnons le regardèrent avec curiosité.
Mais seul Clément demanda, « Comment tu connais tous ces trucs? T'es déjà venu à Cresson ?»
Yémin secoua la tête avec un mélange d'orgueil et de timidité.
« Moi, non, mais le navire, si. C'est Vivacia qui m'a parlé de ces ornements, que mon grand-père trouvait très beaux. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aller les voir par moi-même. »
Un silence absolu tomba, et un des marins fit un petit mouvement de l'auriculaire gauche, peut-être pour évoquer la protection de ça contre la magie noire. Une fois encore, ce fut Clément qui relança la discussion.
« Le navire, c'est vraiment ce que savait le capitaine Vestrit ?»
Yémin haussa vaguement les épaules.
« Je l'ignore. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce qu'il choisit de partager avec moi est très réaliste, presque comme s'il s'agissait de mes propres souvenirs. »
Il se tut, soudain mal à l'aise.
Il n'avait pas envie d'évoquer ce sujet. Il venait de découvrir que le lien qui l'unissait à la Vivacia était d'une nature privée. Non, plus encore, intime.
Un silence gêné retomba sur le groupe. Cette fois, ce fut Confrette qui vint à la rescousse.
« Bon, les gars, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas souvent droit à une virée à terre. Je vais en ville, dans une certaine rue où les fleurs et les femmes sentent bon. »
Il jeta un coup d'œil à Clément.
« Veille à ce que Yémin et toi soyez de retour au canot à l'heure. J'ai pas envie de vous chercher partout. »«
Mais je ne vais pas avec Yémin, » protesta Clément. « J'ai beaucoup mieux à faire que de regarder des murs. »«
Et je n'ai pas besoin qu'on me surveille. renchérit Emma. Il avait décidé d'énoncer tout haut ce qui gênait peut-être les hommes.
« Je n'essaierai pas de me sauver. Je vous donne ma parole que je serai de retour au canot bien avant le coucher du soleil. »
L'air surpris de ses compagnons lui apprit que cette idée ne les avait pas effleurés.
« Ça c'est sûr, » remarqua sèchement Confrette. « On est sur une île pour commencer, et en plus les Kémariens n'aiment pas franchement les étrangers. On ne s'inquiétait pas que tu te sauves, Yémin. Mais ça peut être dangereux à Cresson pour un marin tout seul, et pas seulement pour un mousse, pour n'importe quel marin. Tu devrais l'accompagner, Clément. De toute façon, combien de temps il lui faut pour regarder un mur ?»
Clément prit une mine extrêmement mécontente. Confrette ne lui avait pas donné d'ordre. Il n'en avait pas l'autorité.
Mais si Clément passait outre à sa suggestion et que Yémin ait des ennuis... « Tout ira bien pour moi, » insista Yémin. « Ce ne sera pas la première fois que je visiterai une ville que je ne connais pas. Je sais me débrouiller. Ne perdons pas notre temps à discuter. Je vous retrouverai tous ici bien avant le coucher du soleil, je vous le promets. »«
T'as intérêt !»
dit Confrette d'un ton menaçant, avant d'ajouter avec un soudain entrain.
« Rejoins-nous à la promenade des marins dès que t'en auras fini avec ton mur, et pas à la dernière minute. Maintenant que tu commences à te conduire en vrai matelot à bord... « Il est temps qu'on voit que tu fais partie de notre équipage. »
Confrette tapota du doigt le tatouage au dessin complexe qui ornait son bras, et Yémin secoua la tête avec un sourire d'excuse. Le marin lui fit un pied de nez.
« Bon, eh ben, sois quand même malheur !»
Le jeune garçon savait que désormais, s'il lui arrivait quoi que ce soit, tous pourraient jurer qu'il avait exigé de s'en aller de son côté et qu'il n'avait rien pu y changer. Les voir l'abandonner si vite le laissa un peu déconcerté. Il faisait encore partie du groupe tant qu'ils suivirent la plage, mais en arrivant aux quais commerciaux, ils virèrent comme un vol d'oies sauvages en direction des bars et des bordels du front de mer. Yémin hésita un instant, les regardant s'éloigner avec un étrange sentiment de regret. Il riait fort, ces marins en goguette, et ils se bousculaient amicalement en échangeant des gestes évocateurs de leurs projets pour l'après-midi. Clément courait de l'un à l'autre comme un chien amical, et Yémin comprit soudain qu'il venait tout juste d'être accepté dans cette confrérie, qu'il devait cette récente promotion au seul fait qu'il était venu prendre sa place à l'échelon le plus bas de cette hiérarchie du bord.
Oh, cela ne le dérangeait pas, du moins pas vraiment.
Il en savait assez long sur le caractère humain pour comprendre que l'envie de Clément d'appartenir au groupe et de tout faire pour cela était naturel. Et songea Yémin avec sévérité, il en savait assez sur la nature de ça, pour savoir qu'en certaines occasions, il fallait s'écarter du groupe pour son propre bien. Il était déjà bien assez grave qu'il n'ait pas prononcé le moindre mot à l'encontre de leur projet pour l'après-midi. Il tenta d'en découvrir les raisons, comprit qu'il ne trouverait que des excuses et mit la question de côté. Il avait fait ce qu'il avait fait, et ce soir, il méditerait sur le sujet, dans l'espoir d'y voir plus clair. Pour l'instant, il avait toute une ville à visiter en l'espace de quelques heures. Il avait pour se guider les souvenirs qu'avait gardés son grand-père de la disposition du port. Yémin avait presque la curieuse sensation que le vieux capitaine déambulait à ses côtés, car il remarquait les changements qui s'étaient produits depuis la dernière visite d'Ephron. Une fois, lorsqu'un boutiquier sortit tendre sa banne au-dessus de ses empilements de paniers de fruits, Yémin le reconnut et faillit le saluer par son nom. Il se rattrapa à temps et se contenta de le regarder en souriant et en songeant que son ventre s'était un peu arrondi au cours des dernières années. L'homme lui répondit par un regard mauvais et le toisa comme si le jeune garçon l'avait insulté. Yémin supposa que son sourire était trop familier et se hâta de passer son chemin pour se diriger vers le cœur de la ville. Arrivé sur la place du puits, il s'arrêta, le souffle coupé. L'approvisionnement en eau de Cresson se faisait grâce à un puits artésien. Le précieux liquide surgissait au milieu d'un vaste bassin de pierre avec une force telle que l'eau formait un monticule en son centre, comme si une énorme bulle d'air s'efforçait de remonter des profondeurs. De la cuvette principale,
des canaux l'acheminaient vers d'autres, certains réservés à la lessive, d'autres à la consommation et d'autres encore à l'abreuvage des animaux. Chaque bassin était orné de décorations fantaisistes, mais qui ne laissaient pas de doute sur son usage. Le surplus d'eau disparaissait par un système de récupération qui aboutissait probablement dans la baie. L'espace entre les divers bassins était planté de fleurs et de buissons. De jeunes femmes, certaines accompagnées de petits enfants qui jouaient près d'elles, profitaient de l'après-midi clair et tiède pour laver du linge. Yéma s'arrêta pour contempler le tableau qu'elle composait. Certaines des plus jeunes étaient entrées dans le bassin, les jupes retroussées et lacées autour des cuisses, et avec les pieds, elles tapaient et frottaient les vêtements, puis les essoraient contre leurs jambes, tout en riant et en échangeant des plaisanteries. Les jeunes mères étaient assises au bord du bassin et faisaient leur lessive tout en gardant un œil sur les bébés à quatre pattes et ceux qui tenaient tout juste debout et qui jouaient près de l'eau. Des paniers étaient posés çà et là, pleins de linge mouillé ou sec selon les cas. Il se dégageait tant de simplicité et néanmoins tant de profondeur de cette scène que Yéma sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis qu'il avait quitté le monastère, il n'avait plus vu de gens si harmonieusement engagés dans le travail et la vie. Le soleil brillait sur l'eau et les cheveux lisses des Kémariennes et luisait sur la peau nue de leurs bras et de leurs jambes. Il regardait la scène avec avidité, la sentant comme un baume sur son esprit meurtri.
« Tu es perdu ?»
Il se retourna rapidement. La question aurait pu être aimable, mais ce n'était pas le cas, et l'expression des deux gardiens municipaux ne laissait aucun doute sur leur hostilité. Celui qui avait parlé était un vétéran barbu, avec une longue cicatrice qui lui remontait de la joue jusqu'au cuir chevelu, où ses cheveux par ailleurs sombres étaient blancs. Son compagnon était plus jeune et solidement bâti. Avant de laisser à Yéma le temps de répondre, il déclara
« Le front de mer, c'est par là. C'est là que tu trouveras ce que tu cherches. »
Et de sa matraque, il indiqua le chemin par lequel le jeune garçon était venu.
« Ce que je cherche ?»
répéta Yéma d'un air égaré. Il regarda chaque gardien en essayant de déchiffrer l'expression de son visage fermé et de ses yeux froids. Qu'avait-il donc fait de mal? Je voulais voir la frise des héros et les sculptures du palais Idichi.
Et en chemin, fit le premier gardien avec une lourde ironie, tu t'es dit que tu pourrais t'arrêter pour zioter des jeunes femmes mouillées dans une fontaine.
Que répondra cela? Les fontaines elles-mêmes sont des objets d'art, dit-il.
Et on sait que les marins s'intéressent beaucoup aux objets d'art.
Le gardien avait insisté sur les trois derniers mots avec un ton sarcastique.
Pourquoi tu ne vas pas te payer un objet d'art au foulard au vent? Dis que tu viens de la part de Kentel. J'aurais peut-être droit à une commission.
Yéma baissa les yeux, démonté.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je désire vraiment prendre le temps d'admirer les frises et les sculptures.
Comme aucun des deux hommes ne répondait, il ajouta sur la défensive
« Je vous le promets, je ne ferai d'ennui à personne. De toute manière, il faut que j'aie regagné mon bateau avant le coucher du soleil. Je souhaitais seulement visiter un peu la ville. »
Le plus âgé des deux gardiens se susauta brièvement une dent creuse et, l'espace d'un instant, Yéma crut que ses propos avaient porté.
« Eh bien, nous, on pense vraiment que tu devrais retourner à ta place, près des quais, là où les marins visitent notre ville. La rue pour les gars de ton espèce est facile à trouver. On l'appelle la promenade des marins. Il y a tout ce qu'il faut pour t'amuser. Et si tu n'y vas pas tout de suite, petit, je te promets que tu vas avoir des ennuis. Avec nous !»
Yéma entendait son cœur battre la chamade comme un roulement de tonnerre étouffé dans ses oreilles. Il ignorait quelle émotion était la plus forte, mais, quand il répondit, ce fut la colère et non la peur qu'il perçut dans son propre ton.
« Je m'en vais !» dit-il sèchement.
Pourtant, même si c'était la colère qui l'emportait en lui, tourner le dos à ces hommes restait difficile.
Il sentit un picotement à la nuque, s'attendant à demi à recevoir un coup de matraque à cet endroit. Il tendit l'oreille pour détecter des bruits de pas derrière lui. Ce qu'il entendit fut pire. Un éclat de rire moqueur et un commentaire ironique fait à mi-voix par le plus jeune des gardiens. Il ne se retourna pas et ne pressa pas non plus le pas, mais il sentit les muscles de son cou et de ses épaules se nouer sous l'effet de la fureur. « Mes vêtements !» se dit-il. « Ce n'est pas moi qu'ils ont jugé, mais mes vêtements !» Je dois rester insensible à leurs insultes. Laisse aller, se répéta-t-il tout bas, et au bout d'un moment, il se calma effectivement. Il tourna au croisement suivant et prit un itinéraire différent pour gagner le sommet de la colline. Il voulait bien ne pas prendre ombrage de leurs paroles, mais il ne se laisserait pas vaincre par leur attitude. Il verrait le palais Idichi. Il erra un moment, privé des souvenirs de son grand-père qui n'avait jamais suivi ce trajet. Il fut arrêté deux fois en route. La première par un jeune garçon qui voulait lui vendre des herbes à fumer, et la seconde, plus pénible, par une femme qui proposait de se vendre à lui. Jamais personne n'avait ainsi abordé Yémin, et cette façon de faire le rebuta plus encore que les ulcères révélateurs d'une maladie de la peau autour de la bouche de la malheureuse. Par un effort de volonté, il refusa poliment les deux premières fois, mais comme elle insistait, baissant ses prix et lui proposant tout ce qu'il voulait, tous ses rêves les plus fous, il se résolut à parler clairement. « Je n'ai nul désir de partager votre corps ni votre maladie, » dit-il en se rendant compte avec un pincement au cœur à quel point sa sincérité pouvait être cruelle. Il s'apprêtait à s'excuser, mais elle ne lui en laissa pas le temps. Elle lui cracha au visage et s'en alla brusquement dans un mouvement de dignité blessée. Yémin, poursuivant sa route, prit conscience que cette rencontre l'avait plus effrayé que celle des deux gardiens. Enfin, il parvint au cœur de la ville proprement dit. Là, les rues étaient pavées et chaque édifice portait à son fronton quelques décorations ou ornements qui réjouissaient l'œil. Il s'agissait manifestement des bâtiments publics de Cresson, où on édictait les lois, où on rendait la justice et où étaient menées les plus hautes affaires municipales. Yémin marchait lentement, le regard s'attardant sur tous les détails, et s'arrêtait souvent pour reculer afin de voir l'ensemble d'une architecture. Les arches de pierre faisaient partie des ouvrages les plus extraordinaires qu'il lui eût été donné d'admirer. Il arriva devant un petit temple consacré à Odava, le dieu serpent, avec les portes et les fenêtres arrondies, forme traditionnelle dans cette religion. Il n'avait jamais particulièrement apprécié cette manifestation de ça, et n'avait jamais rencontré d'adorateur d'Odava prêt à reconnaître que le dieu serpent n'était qu'une des facettes de ce joyau qu'était le visage de ça. Cependant, le gracieux édifice évoquait tout de même le divin et les nombreux chemins qu'empruntent ceux qui le cherchent. La pierre en était si finement ouvrée que, quand il la caressa, il sentit à peine les joints. Il resta un moment immobile, l'esprit tendu ainsi qu'on le lui avait enseigné pour percevoir la structure et les forces internes du bâtiment. Il découvrit une puissante unité, presque organique dans son harmonie. Il secoua la tête, stupéfait. Sans presque remarquer le groupe d'hommes en robe blanche striée de vert et de gris, qui était sorti par une porte de derrière et passait près de lui avec des regards agacés. Il finit par revenir à lui et s'aperçut que l'après-midi s'enfuyait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il n'avait plus de temps à perdre. Il arrêta une femme d'âge mûr pour lui demander poliment le chemin du palais Idichi. Elle recula de plusieurs pas avant de répondre. Et encore, ne fût-ce que d'un mouvement de la main qui indiquait une direction générale. Il la remercia néanmoins et reprit sa route à pas pressés. La circulation piétonnière était plus dense dans cette partie de la ville, et à plusieurs reprises, il surprit des regards étonnés posés sur lui. Sans doute ses vêtements le désignaient-ils comme un étranger. Il répondit aux curieux par des sourires et des hochements de tête, mais continua de se hâter, trop pressé pour se montrer plus sociable.
Le site où était bâti le palais Idishi faisait comme un écrin à l'édifice, niché dans un creux de la colline comme dans la paume d'une main accueillante. Yéma avait une vue plongeante sur l'ensemble. La forêt verdoyante en arrière-plan faisait ressortir le blanc luisant des piliers et du dôme, et le contraste entre la folle végétation luxuriante et les lignes précises du palais lui coupa le souffle. Il resta pétrifié. C'était une image qu'il souhaitait conserver en lui-même à jamais. Des gens entraient dans le palais et en sortaient, pour la plupart vêtus de robes gracieusement drapées aux fraîches teintes bleues et vertes. Le spectacle n'aurait pas pu être plus ravissant s'il avait été mis en scène. Yémin déconcentra son regard et respira profondément à plusieurs reprises, se préparant à absorber le tableau dans le plus complet recueillement. Une main s'abattit lourdement sur son épaule.
« On dirait que le petit marin s'est encore perdu ?» fit le garde municipal.
Alors qu'il tournait la tête vers lui, Yémin se sentit pousser brutalement et s'étala sur le pavé. Le plus vieux des deux gardiens le regarda de tout son haut et secoua le chef d'un air presque de regret.
« J'ai l'impression qu'on va devoir le reconduire nous-mêmes cette fois »
dit-il tandis que son collègue musclé s'avançait vers Yémin. Son ton mielleux glaça le cœur du jeune garçon. Mais plus glaçant encore fut pour lui de voir trois personnes qui s'étaient arrêtées pour observer l'altercation. Aucune d'entre elles ne faisait le plus petit effort pour intervenir. Du regard, Yémin implora leur aide, mais elles ne manifestèrent pas le moindre remords de conscience, seulement de l'intérêt pour la suite des événements. Il se redressa précipitamment et se mit à reculer.
« Je n'ai rien fait de mal !» protesta-t-il. « Je voulais simplement voir le palais Idishi. Mon grand-père l'a vu et... »«
On n'aime pas que les rats des quais viennent se balader dans nos rues à reluquer les gens. Ici, à Cresson, on agit avant que les ennuis commencent. »
Yémin n'écoutait pas l'homme. Il pivota sur lui-même pour s'enfuir, mais d'un seul bond, le gardien le plus solide l'attrapa rudement par le col, l'étranglant à demi, et se mit à le secouer. Étourdi, Yémin se sentit soulevé du sol, puis brusquement propulsé en avant. L'élan le fit bouler sur le sol, et un pavé exhaussé lui heurta les côtes flottantes, mais ne lui brisa heureusement aucun os. Il se releva d'un mouvement presque fluide, mais pas assez vite cependant pour éviter le plus jeune des gardiens, qui se saisit à nouveau de lui, le secoua et le projeta dans la direction générale du front de mer. Cette fois, il se cogna contre l'angle d'un bâtiment. Il s'écorcha l'épaule, mais parvint à rester debout. Il se mit à courir d'un pas vacillant, impitoyablement pourchassé par le gardien qui arborait un sourire méchamment satisfait. Derrière lui, son collègue les suivait tout en continuant son sermon. Yémin eut l'impression que ses paroles ne s'adressaient pas à lui, mais au badaud, afin de leur rappeler qu'ils faisaient seulement leur travail.
« On n'a rien contre les marins, tant qu'ils restent avec leurs vermines sur les quais, là où est leur place. On n'a pas voulu être méchant avec toi la première fois, petit, parce que tu n'es qu'un gosse. Si tu étais allé à la promenade des marins, tu te serais aperçu que tu y étais bien, j'en suis sûr. »
« Maintenant, tu y vas, mais de force. Tu aurais pu nous épargner beaucoup d'efforts et à toi beaucoup de bleus, si tu nous avais écoutés. »
Le ton calme et raisonnable du vieux soldat était presque plus horrifiant que le plaisir efficace de l'autre gardien à exécuter sa tâche. Le plus jeune était aussi vif qu'un serpent. Il avait une fois de plus réussi à saisir Yémin par le col, et cette fois... Il le projeta de côté comme un chien le fait d'un rat et l'envoya heurter violemment un mur. Yémin sentit son crâne heurter la pierre et un éclair de ténèbres traversa son esprit. Il perçut le goût du sang dans sa bouche.
« Je ne suis pas marin, » bredouilla-t-il malgré lui. « Je suis prêtre, prêtre de ça. »
Le jeune gardien s'esclaffa, tandis que son collègue secouait la tête d'un air de fin regret.
« Oh oh ! Alors te voilà, hérétique en plus de rebut des quais. Tu ne sais donc pas que les adorateurs d'Odava n'apprécient pas ceux qui veulent faire du dieu serpent une simple partie de leur dieu à eux ? J'allais dire à Flav que tu avais eu ton compte, mais je crois qu'un ou deux petits coups en plus pourraient accélérer ton illumination. »
L'autre avait refermé le poing sur le col de Yémin et s'en servait pour le remettre sur pied. Éperdu, le jeune garçon se laissa glisser de la chemise trop grande pour lui et retomba par terre, torse nu. Aiguillonné par la terreur, il se releva tant bien que mal et s'enfuit à toutes jambes sous l'éclat de rire général des spectateurs. Il entreaperçut l'expression de surprise de son tourmenteur et la barbe de son collègue fendue par un large sourire amusé. Avec, dans les oreilles, le rire de l'un et le cri furieux de l'autre, Yémin se sauvait à toute allure. Les ravissantes maçonneries qu'il avait laissées béat d'admiration quelques minutes plus tôt n'étaient plus que des éléments d'un décor qu'il devait quitter au plus vite pour retrouver la sécurité du navire. Les larges avenues toutes droites, si ouvertes et accueillantes à l'aller, paraissaient à présent conçues dans le seul but de faciliter sa poursuite. Il zigzaguait entre les piétons qui s'écartaient de lui, puis le regardait avec curiosité s'éloigner ventre à terre. Il tournait dès qu'il le pouvait, trop inquiet de se voir pourchassé pour jeter le moindre coup d'œil en arrière. Quand les rues s'étrécirent et se mirent à sinuer entre des rangées d'entrepôts en bois, d'auberges et de bordels délabrés, il ralentit sa course, à présent titubante, et regarda ce qui l'entourait. Un atelier de tatouage, une chandellerie qui ne payait pas de mine, une taverne, une autre taverne. Il arriva devant l'entrée d'une ruelle et y pénétra sans prêter attention aux immondices qu'il foulait. À mi-longueur de la venelle, il s'adossa à un encadrement de porte pour reprendre son souffle. Son dos et son épaule lui cuisaient là où la pierre les avait écorchés. Il palpa ses lèvres avec précaution. Elles commençaient déjà à enfler. Une grosse bosse se formait sur sa tête. L'espace d'une seconde, il se demanda avec horreur jusqu'où le gardien comptait aller. Lui aurait-il fendu le crâne ? Aurait-il continué à le rouer de coups jusqu'à ce que mort s'en suive s'il ne s'était pas enfui ? Il avait entendu parler de marins et d'étrangers qui s'étaient fait dresser les côtes par la garde municipale, même à Terrilleville. Était-ce ce qu'il venait de subir qu'on désignait par là ? Mais il croyait que cela n'arrivait qu'aux ivrognes, à ceux qui se tenaient mal ou qui avaient une conduite délictueuse. Pourtant, cela lui était arrivé à lui, ce jour même.
Pourquoi ?
Parce que je portais un costume de marin, se dit-il tout bas. Et pendant un instant effrayant, il songea que c'était peut-être la punition de ça pour n'avoir pas mis sa robe de prêtre. Il avait renié ça. Et en retour, ça lui avait retiré sa protection. Il repoussa cette pensée indigne. C'étaient les enfants et les superstitieux qui parlaient ainsi de ça, comme si ce n'était qu'un homme plus grand et plus vindicatif que les autres, et non le dieu de tout et de tous. Non, telle n'était pas la leçon à tirer de son aventure. Qu'était-ce donc alors ? À présent que le danger était passé, il cherchait refuge dans cet exercice familier. Il y avait toujours à apprendre de toute expérience, si terrible soit-elle. Tant qu'on n'oubliait pas cette vérité, l'esprit pouvait venir à bout de tous les obstacles. C'était seulement lorsqu'on baissait les bras et qu'on se mettait à croire que l'univers n'était qu'un ramassis chaotique d'événements malheureux ou cruels que l'esprit pouvait être vaincu. Il respirait plus aisément. Sa bouche et sa gorge étaient sèches, mais il ne se sentait pas encore prêt à chercher de l'eau. Il repoussa la sensation au fond de sa conscience et s'étendit vers le centre serein de son être. Il prit quelques profondes inspirations pour s'apaiser et s'ouvrit pour capter la leçon en interdisant à son esprit et à ses émotions de la modeler. Qu'y avait-il à apprendre de ce qu'il avait vécu ? Que devait-il en retenir ? La pensée qui vint flotter dans son esprit le choqua. Avec une grande clarté, il vit sa propre crédulité. Il avait vu la beauté de la ville, et il en avait déduit qu'elle était habitée de beaux esprits. Il était venu en s'attendant à être accueilli dans la lumière de ça. Son préjugé était si fort qu'il n'avait prêté attention à aucun des avertissements à présent si évidents. Ses compagnons de bord l'avaient prévenu. L'hostilité des gardiens municipaux était une autre mise en garde, ainsi que les regards noirs des habitants. Il s'était conduit comme un enfant trop confiant qui s'approche d'un chien grondant. C'était sa faute s'il s'était fait mordre. Une vague d'affliction déferla sur lui, plus puissante que tout ce qu'il avait ressenti jusque-là. Il ne s'y attendait pas, et se laissa submerger, perdant son équilibre intérieur. Il n'y avait aucun espoir, aucun. Il ne reverrait jamais son monastère. Il ne retrouverait jamais l'existence méditative qui lui manquait tant. Il allait devenir comme tant de gens qu'il avait croisés, convaincu que tout le monde était son ennemi personnel et que seul l'argent donnait accès à l'amitié ou à l'amour. Combien de fois n'avait-il pas entendu des gens se moquer de l'idéal de ça, selon lequel les hommes avaient été créés pour devenir des êtres bons et beaux? Où était-ce, demanda-t-il avec amertume, la bonté chez ce jeune gardien qui avait tant pris plaisir à le rosser? Où était la beauté chez cette femme aux lèvres ulcéreuses, prête à coucher avec lui pour de l'argent? Il se sentait soudain très jeune et très bête, prêt à croire n'importe quoi. Quel imbécile! Quel triste imbécile! La douleur de son âme était aussi réelle que celle de ses meurtrissures, et son cœur était lourd dans sa poitrine. Il ferma les yeux, les paupières plissées, et forma le vœu de se trouver ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'éprouverait pas ce qu'il éprouvait. Au bout d'un moment, il rouvrit les yeux et se redressa. Le pire était qu'il devait encore regagner le navire. L'expérience aurait déjà été assez rude s'il avait pu se réfugier dans la paix et la sécurité du monastère. Mais retrouver les querelles stupides qui faisaient l'ordinaire à bord de la Vivacia, la brutalité de Torg et le plaisir pervers qu'il y prenait, l'attitude méprisante de son père, c'était presque plus que n'en pouvait supporter son cœur. Pourtant, quel autre choix avait-il? Se cacher et rester à Cresson pour y devenir un vagabond sans le sou, en proie au dédain de tous? Il poussa un grand soupir, mais son cœur ne fit que s'alourdir. Pataugeant dans les ordures en décomposition, il gagna l'entrée de la ruelle et regarda le soleil dans le ciel occidental. L'après-midi qui lui avait paru si court pour visiter la ville s'allongeait à présent démesurément avant la tombée du soir. Il décida de se mettre à la recherche du reste du groupe de la Vivacia. Il ne voyait plus quoi faire d'autre à Cresson. Torse nu, il se mit à errer à pas lourds dans les rues, sans prêter attention au regard amusé des passants devant ses bleus et ses écorchures. Il finit par rencontrer une troupe de marins qui faisaient manifestement partie de l'équipage d'un autre bateau et qui étaient eux aussi en permission à terre. Tous avaient le front ceint d'un bandeau qui avait autrefois été blanc et décoré d'un oiseau noir sur le devant. En riant et en échangeant des insultes amicales, ils sortaient d'un bordel et se dirigeaient vers une taverne quand ils aperçurent Yémin.
« Ah, le pauvre petit !»
s'exclama l'un d'eux avec une feinte compassion.
« Elle t'a viré, hein? Et en plus, elle t'a piqué ta chemise !»
Ce trait d'esprit déclencha un éclat de rire général. Yémin passa son chemin. Il tourna un coin de rue et sut qu'il avait enfin trouvé la promenade des marins. Non seulement on y voyait l'enseigne du foulard au vent, représentant une femme uniquement vêtue d'un foulard qui flottait dans la brise, mais également d'autres, au fronton d'anciennes tavernes, tout aussi évocatrices. Les images signalaient avec crudité les spécialités de la maison. Manifestement, ceux qui les avaient conçus ne se faisaient guère d'illusions sur l'aptitude des marins à lire et à écrire. D'autres distractions moins onéreuses étaient proposées dans la rue. Un éventaire vendait des porte-bonheurs, des potions et des amulettes. Coiffe de nouveau-nés séchés pour protéger de la noyade, morceaux de corne pour assurer la virilité, huile magique réputée capable d'apaiser une tempête.
Yémin passa devant l'échoppe avec un regard de pitié pour les crédules qui achetaient ce genre d'article. Plus loin, sur un carré marqué au sol à la craie, un montreur d'ours offrait au badaud l'occasion d'un combat contre son animal pour le prix d'une bourse d'or. Muselé et les griffes rognées, l'ours n'en conservait pas moins l'air redoutable. Une courte chaîne lui entravait les pattes arrière, tandis qu'une autre, plus grosse, partait de son collier pour s'arrêter dans le poing de son maître. Il ne cessait de s'agiter, semblable à une montagne impatiente et nerveuse, tout en scrutant la foule de ses petits yeux. Yémin se demanda qui serait assez demeuré pour se laisser convaincre de relever un tel défi. Soudain, son cœur se serra. Il venait d'apercevoir Confrette qui, appuyé sur un de ses compagnons, discutait avec le dresseur, un sourire béat sur les lèvres. Une petite assemblée de spectateurs, des marins pour la plupart, prenait fiévreusement des paris. Le jeune garçon s'apprêtait à poursuivre sa route à la recherche de Clément quand il l'entrevit parmi les parieurs. Avec un soupir, il alla le rejoindre. Clément le reconnut et lui lança un sourire ravi.
Hé, arrive, Yémin, tu as de la chance. Confrette va se battre avec l'ours. Allonge ta mise, tu vas pouvoir la doubler.
Il se rapprocha de son ami.
C'est du tout cuit. On vient de voir quelqu'un gagner. Il n'a eu qu'à grimper sur le dos de l'ours et la bestiole a tout de suite flanché. Après ça, le dompteur ne voulait plus laisser personne se battre avec elle, mais Confrette a insisté.
Clément ouvrit soudain de grands yeux.
Hein? Où est passée ta chemise?
Je l'ai perdue en me bagarrant avec des gardiens municipaux. Yémin se réjouit de constater qu'il parvenait presque à prendre l'affaire à la plaisanterie. Et il commençait à se vexer un peu de la facilité avec laquelle Clément se laissait convaincre de la véracité de ses dires, quand il remarqua la laine de son interlocuteur. Quelques instants plus tard, il le vit déplacer quelque chose dans sa bouche. De la sindine. Le stimulant faisait vaciller son regard. Yémin s'inquiéta. C'était une drogue interdite à bord du navire. S'il mettait seulement le pied sur le pont, alors qu'il était encore sous son influence, il aurait des ennuis. L'optimisme irréfléchi qu'elle induisait était incompatible avec la prudence nécessaire aux marins. Yémin songea qu'il devait intervenir, suggérer à son jeune camarade de faire attention, mais les mots lui manquèrent.
Je voulais seulement vous prévenir que je vous attendrai au canot. J'ai fini de visiter la ville et je retourne à la plage.
Non, non, ne t'en va pas!
Clément le saisit par le bras.
Reste pour le spectacle! Tu le regretteras toute ta vie si tu ne vois pas ça.
Tu es sûr que tu ne veux pas miser une pièce ou deux? La cote ne vaut pas mieux que ça. Et l'ours est fatigué, c'est obligé. Il s'est déjà battu 5 ou 6 fois.
Et le dernier adversaire a remporté le combat? Yémin se sentait gagné par la curiosité.
Ouais, mon gars. Une fois qu'il a réussi à monter sur le dos de l'ours, la bête s'est repliée comme un chat qui dort. Tu peux me croire? Le montreur l'avait mauvaise en remettant la bourse d'or au type.
Clément passa son bras sous le coude de Yémin.
J'ai parié mes 5 dernières pièces de cuivre. Évidemment, Confrette a placé davantage.
Il s'est bien débrouillé à la table de jeu tout à l'heure.
Clément lui jeta de nouveau un regard scrutateur.
« Tu es sûr que tu ne veux pas miser sur lui? Tout l'équipage parie sur lui !»«
Je n'ai pas la moindre pièce sur moi, ni même une chemise, » répondit Yémin.
« Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, t'inquiète pas, c'est... Oh, ça y est, il y va !»
Le sourire aux lèvres, en saluant de la main ses compagnons de bord, Confrette pénétra dans le carré. À peine eut-il franchi la ligne que l'ours se dressa sur ses pattes de derrière. Ses chaînes l'empêchant de faire de trop grands pas, il se dirigea lourdement vers l'homme qui partit d'un côté, puis de l'autre, pour se faufiler derrière la bête. Mais il n'y parvint pas. Comme il s'était exercé 100 fois à exécuter ce mouvement, l'ours pivota et gifla le marin. Ses puissantes pattes avant avaient une portée bien supérieure à ce qu'aurait cru Yémin, et sous la force du coup, Confrette fut projeté par terre à plat ventre.
« Debout, relève-toi !»
hurlèrent ses camarades, et, à sa propre surprise, Yémin les imita. L'ours, retombé à 4 pattes, poursuivit sa danse impatiente. Confrette releva le visage de la rue poussiéreuse. Du sang coulait de son nez, mais les acclamations de ses amis parurent lui redonner courage. D'un bond, il se remit sur pied et se précipita pour contourner l'ours.
Mais la bête se dressa de nouveau, haute et inébranlable, comme une muraille, et tendit une patte pour cueillir l'homme au passage. Cette fois, le marin fut jeté sur le dos et son crâne rebondit contre la terre dure. Yémin fit la grimace et détourna les yeux avec un gémissement.
« Il est fichu, » dit-il à Clément. « On ferait mieux de le ramener au navire. »
« Non, non, il va se relever. Allez, confrète, c'est qu'un gros ours sans cervelle. Debout, mon gars, debout !»
Les autres marins de la Vivacia criaient eux aussi. Et tout à coup, Yémin reconnut parmi les cris la voix rauque de Torg. Manifestement, le capitaine lui avait donné congé afin qu'il s'amuse un peu. Yémin eut brusquement la certitude que le lieutenant allait trouver quelque saillie devant sa chemise disparue. Et il regretta d'avoir quitté le navire. La journée n'avait été décidément qu'une longue série de catastrophes.
« Je retourne au canot, » annonça-t-il à nouveau à Clément.
Mais celui-ci, sans prêter attention à ses propos, resserra sa prise sur son bras.
« Non, regarde, il se relève, je te l'avais bien dit. C'est ça, confrète, vas-y. Mon gars, tu peux y arriver. »
Yémin doutait que l'homme entendît un seul des mots que criait Clément. Il paraissait encore étourdi du coup reçu, comme si seul l'instinct l'obligeait à se redresser et à s'éloigner de l'ours. Mais à l'instant où il fit mine de bouger, l'animal fut de nouveau sur lui et le prit entre ses pattes avant. Le tableau était comique, mais Confrette se mit à hurler d'une façon qui laissait à penser que l'étreinte lui brisait les côtes.
« Tu abandonnes !»
cria le montreur d'ours au marin. Et Confrette acquiesça violemment de la tête, incapable d'inspirer pour répondre autrement.
« Lâche-le, soleil! Lâche-le !»
ordonna le dresseur, sur quoi l'ours laissa tomber Confrette et s'éloigna à pas lents. Il s'assit docilement dans un coin du carré et hocha la tête comme pour remercier la foule de ses acclamations. Sauf qu'il n'y avait pas d'acclamations.
« J'avais misé tout mon fric sur lui !»
s'écria un marin en marmonnant ensuite un commentaire sur la virilité de Confrette qui ne semblait pas offrir de rapport étroit avec la lutte contre un ours.
« Le combat n'était pas loyal !»
s'exclama un autre qui parut réunir le consensus de tous les parieurs, dont aucun ne présenta cependant d'argument pour fonder cette accusation, comme Yémin le remarqua. Il avait lui-même des doutes, mais ne vit aucun motif de les exprimer, et il préféra aller aider Confrette à se remettre debout. Clément et les autres étaient trop occupés à s'apitoyer sur leur perte.
« Confrette, espèce d'imbécile !»
cria Torg de l'autre bout du carré.
« T'es même pas fichu de passer derrière un ours entravé !»
D'autres remarques d'une aigreur égale confirmèrent que c'était l'expression de l'opinion générale. Les hommes de la Vivacia n'étaient pas les seuls à avoir perdu leur mise. Confrette finit de se relever en toussant, puis il se courba pour cracher du sang. Il reconnut enfin Yémin.
« J'ai bien fini la voir, » fit-il en haletant. « Ouais, j'ai bien fini la voir. J'ai perdu tout ce que j'avais gagné dans l'après-midi. Me voilà fauché comme les blés. Zut, si seulement j'avais été un peu plus rapide !»
Il toussa de nouveau, puis émit un rauque qui sentait la bière.
« J'ai failli gagner. »«
Je ne pense pas, » dit Yémin à mi-voix, plus pour lui-même que pour Confrette. Mais l'homme l'entendit.
« Si, je te jure, j'ai failli l'avoir, petit. Si j'avais été un peu plus petit et un peu plus vif, on serait tous rentrés au navire les poches pleines. »
Du dos de la main, il essuya le sang qui lui maculait la bouche. « Je ne pense pas, » répéta Yémin. Pour consoler Confrette de sa perte, il ajouta, « À mon avis, le combat était truqué. L'homme qui a remporté le précédent était sans doute de mèche avec le montreur d'ours. On te montre un moyen de gagner, mais en réalité, l'ours est dressé. Et quand tu essaies le même moyen, il s'y attend et il te coince. Ne te fais pas de reproches, Confrette. Ce n'était pas ta faute. C'était une escroquerie. Allons, viens, on va te ramener au bateau. » Et il passa le bras autour de la taille de l'homme. Mais Confrette s'éloigna brusquement de lui.
« Hé, vous, le montreur d'ours, vous avez triché. Vous nous avez trompés, mes amis et moi. »
Dans le silence choqué qui suivit, Confrette s'exclama.
Je veux récupérer mon argent !»
Le dresseur était en train de réunir ses gains avant de s'en aller. Sans répondre, il prit la chaîne de son animal et, malgré les protestations de Confrette, il serait parti si plusieurs matelots d'un autre navire ne s'étaient pas placés sur son chemin.
« C'est vrai ?» demanda l'un d'eux. « Vous avez triché ? Le combat était truqué ?»
L'homme promena son regard sur les spectateurs en colère.
« Bien sûr que non !»
répondit-il d'un ton moqueur.
« Comment ce serait possible ? Vous avez vu le type ? Vous avez vu l'ours ? Il n'y avait que deux dans le carré. Il a payé pour avoir la chance de combattre l'ours et il a perdu. C'est pas plus compliqué !»
En un sens, ce qu'il disait était exact. Et Yémin s'attendit que les marins l'admettent, fût-ce à contre-cœur. C'était oublier tout ce qu'ils avaient bu et tout ce qu'ils avaient perdu. Une fois portée l'accusation de tricherie, un simple démenti ne pouvait pas suffire à les calmer. L'un d'eux, un peu plus vif d'esprit que les autres, s'écria soudain.
« Hé, il est parti où, le gars qui avait gagné avant ? C'est ton copain ? L'ours le connaît ? »
« Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ?» rétorqua le maître de l'animal.
« Il est sans doute allé dépenser l'argent qu'il m'a pris !»
Une fugace expression d'inquiétude était passée sur les traits de l'homme qui se mit à scruter la foule, comme s'il cherchait quelqu'un des yeux.
« Eh bien moi, je pense que l'ours est dressé !»
déclara un marin d'un ton furieux. Dans le contexte, Yémin jugea l'affirmation des plus évidentes et des plus stupides.
« Le combat n'était pas loyal !» « Je veux qu'on brande mon fric !»
s'exclama un autre, et presque aussitôt, le cri fut repris par le reste de la foule. Une fois de plus, le montreur d'ours parut chercher quelqu'un des yeux, mais ne trouva aucun allié.
« Hé ! On te dit qu'on veut récupérer notre pognon !»
lui dit Torg. Il s'avança, en carrant les épaules, jusqu'à ce que son visage touche presque celui de l'homme.
« Confrette, l'est du même navire que moi. Tu crois qu'on va rester les bras croisés à le regarder se faire massacrer et nous faire perdre tout l'argent qu'on a trimé pour gagner ? Tu t'es foutu de notre copain. Et par les couilles de ça, on ne va pas se laisser faire. »
Comme nombre de brutes, il savait trouver la corde sensible qui lui rallierait les suffrages. Il jeta un coup d'œil sur les hommes qui le regardaient, puis se retourna vers le dresseur d'ours.
« Tu crois qu'on n'arrivera pas à reprendre notre pognon si tu veux pas nous le rendre de bon gré ?»
Un grondement d'acquiescement monta de la foule. L'homme comprit qu'il n'aurait pas le dessus. Yémin eut presque l'impression de le voir chercher un compromis.
« Je vais vous dire, » fit-il brusquement, « je n'ai pas triché. Mon ours non plus, et la plupart d'entre vous le savent bien, je pense. Mais je veux me montrer loyal. » Et plus que loyal même. Je suis prêt à laisser celui d'entre vous qui le voudra se battre contre mon ours gratuitement. S'il gagne, je vous paye toutes vos mises comme si c'était votre copain là qui avait gagné. S'il perd, je garde l'argent. C'est assez loyal comme ça. Je vous offre l'occasion de récupérer votre argent pour rien.
Après un bref silence, la foule donna son accord dans un marmonnement général. Yémin se demanda quel serait le prochain fou à tâter de la force de l'ours.
Tiens, Yém, vas-y, toi !
S'exclama Confrette. Il poussa le jeune garçon en avant.
Tu es petit et vif, t'as qu'à passer derrière lui et lui monter sur le dos.
Non, non, merci.
Aussi vite que Confrette l'avait fait avancer, Yémin recula. Mais certains avaient entendu le marin. Et un homme d'un autre navire reprit la proposition.
« Ouais, leur mousse n'a qu'à essayer. Il est petit et rapide. Je parie qu'il est capable de passer derrière l'ours et de nous récupérer nos mises. »«
Non !»
répéta Yémin plus fort, mais sa voix se perdit dans le cœur qui acquiesçait aux paroles du matelot. Ce n'étaient pas seulement ses compagnons de bord qui le pressaient d'accepter, mais la foule dans son ensemble. Torg s'approcha de lui d'un air digne et le toisa. Il sentait la bière.
« Alors ? »
fit-il d'un ton railleur.
« Tu crois que tu peux récupérer notre fric ? Moi, ça m'étonnerait. Mais tu peux toujours essayer, petit. »
Il saisit Yémin par le bras et le traîna en direction du carré.
« Notre mousse voudrait tenter le coup. »«
Non, c'est faux !»
s'insurgea Yémin. Torg lui jeta un regard menaçant.
« T'as qu'à passer derrière lui et à lui grimper sur le dos »
expliqua-t-il d'un ton patient.
« Ça devrait pas être difficile pour une petite fouine comme toi. »«
Non, je refuse !»
déclara Yémin d'une voix nette. Un éclat de rire général accueillit cette déclaration, et Torg rougit de gêne et de rage.
« Que si, tu vas y aller !»«
Le gamin veut pas risquer le coup, là, pas le cran !»
dit quelqu'un près de Yémin. Le dresseur avait ramené son animal dans le carré.
« Alors, il essaie ou non, votre mousse ?»«
Non !»
répondit Yémin, tandis que Torg déclarait fermement
« Ouais !» « Laissez-lui une minute !»
Et il se tourna vers le jeune garçon d'un air mauvais.
« Écoute voir !»
fit-il d'une voix sifflante.
« Tu nous fais honte à tous. Tu fais honte à ton navire. Rentre là-dedans et récupère notre pognon !»
Yémin secoua la tête.
« Faites-le vous-même. Moi, je ne suis pas stupide au point de me mesurer à un ours. » Même si j'arrivais à le contourner et à lui monter sur le dos, rien ne garantit qu'il abandonne le combat. Ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que...
« Moi j'y vais !»
s'exclama Clément. Le défi faisait briller ses yeux.
« Non !» dit Yémin. « Ne fais pas ça, Clément. C'est complètement idiot. Si tu n'étais pas plein de sardines jusqu'aux yeux, tu t'en rendrais compte toi aussi. Si Torg y tient tant que ça, qu'il le fasse lui-même.
« Je suis trop bourré !»
répondit l'intéressé sans vergogne.
« Allez, vas-y, Yémin. Montre-nous que t'as du cran. Prouve que t'es un homme !»
Le jeune garçon jeta un coup d'œil à l'ours. Il faudrait être fou pour s'attaquer à lui. Il le savait parfaitement. Avait-il quoi que ce soit à prouver, et à Torg, par-dessus le marché ?«
Non !»
Il s'exprimait d'une voix forte et catégorique.
« Je refuse d'essayer !»
« Bon, votre mousse ne veut pas essayer et moi je ne vais pas passer la journée ici. L'argent est à moi, les gars !»
Avec un haussement d'épaule marqué, le dresseur lança un sourire à la cantonade. On entendit dans la foule une remarque peu flatteuse sur l'équipage de la Vivacia.
« Eh, moi je veux bien !»
c'était Clément, avec un sourire béat.
« Non, Clément !»
fit Yémin d'un ton suppliant.
« J'ai pas peur !» Et il faut bien récupérer notre pognon.
Il ne tenait pas en place.
On peut pas partir d'ici en laissant croire que les gars de la Vivacia ont rien dans le ventre. Ne fais pas ça, Clément, tu vas te faire blesser.
Torg secoua violemment Yémin par le bras.
La ferme!
Il rota.
La ferme!
Répéta-t-il plus clairement.
Clément, il a pas peur, lui. Il peut y arriver s'il veut. À moins que tu veuilles prendre sa place. Grouille! « Décide-toi. Il faut que l'un de vous deux récupère notre fric. Il est presque l'heure de rentrer. »
Yémin baissa la tête anéantie. Comment en était-on arrivé là? À ce seul choix possible, Clément ou lui qui pénétrait dans un carré pour y affronter un ours afin de récupérer l'argent perdu par d'autres dans un combat truqué. C'était ridicule. Il parcourut la foule des yeux dans l'espoir d'y trouver un visage à l'expression rationnelle, quelqu'un qui pût se rallier à son point de vue. Un homme croisa son regard.
« Alors, qui c'est qui y va ?»
demanda-t-il d'une voix tendue. Yémin secoua la tête sans un mot.
« Moi !»
s'exclama Clément en souriant aux anges et en sautillant sur place. Il entra dans le carré et le dresseur lâcha la chaîne de l'ours. Plus tard, Yémin devait se demander si l'homme n'avait pas passé son temps, en attendant le combat, à exciter discrètement son animal. Car l'ours, loin de s'avancer lentement vers Clément, ou dressé sur ses pattes arrière entravées, de cheminer à petits pas vers lui, se précipita sur lui d'un bond, le heurta en pleine poitrine de sa lourde tête, puis l'étreignit entre ses énormes pattes.
Il se dressa sur celle de derrière sans lâcher Clément qui se débattait en hurlant. Et de ses griffes, pourtant rognées, il déchira la chemise du jeune matelot jusqu'à ce qu'un cri de son maître l'oblige à rejeter sa proie. Clément s'écrasa au sol en dehors du carré.
« Relève-toi !»
cria quelqu'un. Mais Clément ne bougea pas. Même le propriétaire de l'ours paraissait effaré par la violence du combat. Saisissant la chaîne, il la tira brutalement à lui pour convaincre l'animal qu'il le maîtrisait.
« C'est terminé !»
déclara-t-il.
« C'était à la loyale, vous l'avez tous vu. C'est l'ours qui a gagné, le gosse est hors des limites. Et l'argent reste à moi. »
Quelques grommellements accueillirent cette affirmation. Mais cette fois, nul n'interpella l'homme quand il s'en alla, l'ours sur les talons. Un marin jeta un coup d'œil à Clément qui gisait toujours dans la poussière, puis il cracha.
« Rien dans le ventre, tous autant qu'ils sont !»
déclara-t-il en dévisageant Yéma avec dégoût. Le jeune garçon soutint un moment son regard, puis alla s'agenouiller près de Clément. Il respirait encore. Il avait la bouche à demi ouverte et il inhalait de la poussière à chaque inspiration. Il avait heurté le sol si durement, la poitrine la première, qu'il serait miraculeux s'il n'avait pas au moins des côtes cassées. « Il faut le ramener au navire !» dit-il en levant les yeux vers Confrette.
L'intéressé lui jeta un regard écœuré, puis détourna le visage comme s'il n'existait plus.
« Allez les gars, c'est l'heure de rentrer à bord !»
Et sans égard pour les éventuelles blessures de Clément, il saisit le garçon par le bras et le tira jusqu'à ce qu'il soit debout. Clément commença de retomber, inerte comme une poupée de chiffon, et Confrette le prit à bras-le-corps et le jeta sur son épaule. Les deux autres marins de la Vivacia lui emboîtèrent le pas sans daigner prêter la moindre attention à Yéma.
« Ce n'est pas ma faute !» s'exclama le jeune garçon, tout en se demandant si c'était bien le cas.
« Si !» rétorqua Torg. « Il était bourré à la sardine, et tu le savais. Il n'aurait pas dû entrer là-dedans. Mais il a été obligé, parce que t'es qu'un lâche. « Eh bien, »
ajouta-t-il avec un sourire de satisfaction méchante,
« maintenant tout le monde sait ce que tu vaux. Avant, j'étais le seul à savoir que t'étais qu'un cul mouillé. »
Torg cracha dans la poussière de la rue et s'éloigna. Yéma resta un moment seul à regarder les coins à demi effacés du carré. Il savait avoir fait le bon choix. Mais la terrible impression d'avoir laissé passer une occasion commençait à l'envahir. Il venait de perdre la chance d'être enfin accepté à part entière à bord de la Vivacia, d'être considéré comme un homme parmi d'autres hommes. Il jeta un coup d'œil au soleil couchant, puis se hâta de rattraper les marins qui le méprisaient désormais.